Nous sommes mardi, il est 21h et c'est l'heure du Dojo Bar. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Méduse. Méduse qui devrait être en mode extrêmement fatigué si tout
minimum.
Va bien. Voilà, et donc qui a décidé de faire l'intégralité du Dojo Bar, les yeux fermés, mesdames, messieurs, admirez l'exploit.
Indissus.
Je pense que c'est la première fois que quelqu'un tente de faire un Dojo Bar en aveugle. C'est quand même une épreuve extrêmement difficile, donc je pense qu'on peut applaudir Méduse pour son courage et son abnégation.
Merci.
Voilà. Et parmi nos invités qui applaudissent, puisqu'il y a plein d'invités qui applaudissent, nous avons Frosties.
Bonsoir.
Bonsoir, Frosties.
Qui a déménagé dans un aquarium.
Ouais, non, qui mais gueule, attends. Tiens.
Ah, non, c'est près de la mer, hein.
Voilà. Nous avons Antix, l'homme réverso.
Salut.
Voilà, notre Smash Brosseur devant l'éternel.
Exactement.
Voilà. Et donc au programme de ce soir, on va commencer par notre traditionnel tour de table de l'actu qui va être a priori très court, hein, sauf si quelqu'un nous sort une énorme actu de dernière minute là maintenant tout de suite. Ensuite on parlera de Bayonetta, le 1, le 2, les deux, j'ai envie de dire, on va faire un lot, c'est-à-dire le 1 et le 2, et on parlera un petit peu d'Amiibo. Alors non, ce n'est pas une
Amiibo,
nouvelle drogue,
c'est bon,
la vie. les amis moches aussi, on pourra parler.
On va parler d'animaux.
Moi, mes amis sont beaux.
Bah, pareil.
Non, je ne pense pas. Ils sont moches. Bref, Antique, je vais te laisser commencer. Alors, Antique s'est lancé un petit défi au début de la saison, c'est de parler systématiquement de Smash Bros. Et donc là, tu vas nous parler de quoi?
Mario Kart. Donc oui, histoire de pas... de casser mon combo et avoir un platine à la fin de la saison, je vais encore parler Smash Bros. Suite au Smash Bros Direct qu'on a eu il y a 2 semaines, un truc comme ça, il y a eu quelques informations intéressantes sur la version Wii U qui a pas mal de petites choses surprenantes dedans, à commencer par un mode 8 joueurs.
Ça, c'est quand même de la balle.
Je pense que ça va être encore plus bordélique qu'avant. Mais heureusement, ils ont prévu de faire ça sur des stages assez grands.
Ça va être trop bien.
Il faudra trouver 8 personnes. Mais oui, ça va être très cool.
C'est pas jouable en ligne ? C'est 8 seulement
en
local ?
C'est 8 en local parce que en ligne, apparemment, ils ont pas réussi à trouver le moyen de le faire fonctionner correctement.
Parce que online Nintendo, donc...
Déjà,
non, ça, c'est
déjà sur 3DS à 2, c'est pas toujours fou, donc j'imagine pas à 8. Les autres trucs qui étaient intéressants, sinon ça a été l'annonce d'un DLC gratuit pour les gens qui achetaient la version 3DS et la version Wii U, et qui était le personnage de Mewtwo, mais qui sera disponible qu'au printemps 2015. Donc moi personnellement je vois surtout... Alors Mewtwo je m'en branle parce qu'il était à chier dans Melee, mais là où je vois ça intéressant, c'est que c'est presque une... Enfin, il y a une possibilité qu'on ait des DLC sur Smash Bros. À partir du printemps. Ça va renouveler l'intérêt du jeu, si c'est le cas. Et du coup, ça m'intéresse beaucoup de voir qui ils vont mettre dans ces DLC.
Ça va être un peu compliqué parce que là, en termes de roster, de nombre, enfin de personnages disponibles, c'est quand même un peu la folie. Déjà, je veux dire.
Il y a des gens qui se plaignent sur Internet parce qu'il manque Carol, ils voulaient Dixie.
Ouais, qui est-ce qui s'exprime sur Internet, hein?
Ouais, enfin, n'importe quoi.
Ouais, il y a que des
connards. Tout le monde et sa maman.
Et que des connards sur internet.
Exactement.
Ça, mais il y en a qui ont remarqué par exemple que Vlad, le héros de Golden Sun, n'était pas disponible dans les trophées alors qu'il l'était dans Brawl, et que la majorité des trophées qu'on a dans le jeu ont pas trop été retouchés depuis Brawl, j'ai l'impression. En tout cas, pour certains, c'était un peu des copier-coller. Peut-être c'est un des persos qui sera disponible. On sait pas encore. Et le dernier truc, c'est que contrairement à d'habitude, on se tape pas en retard, mais le jeu sera en avance en Europe d'une semaine, vu qu'il sortira le 28 novembre. Donc vous pourrez le trouver le 25 novembre dans tous les Micromania et les Fnac de France.
Oui, parce que la Fnac est bien connue pour livrer ses jeux 3 jours plus
exactement
tôt que tout le monde, je sais pas pourquoi. Mais il faut se déplacer physiquement au magasin. Quand tu te les fais livrer, ça marche pas.
Ah ouais. Même Amazon, ouais, chez moi, ils sont en retard d'une journée généralement.
Non, moi j'arrive à les avoir le jour de la... Enfin, j'arrive à les voir le vendredi. Sauf Bayonetta, que j'ai eu que le samedi. Je sais pas pourquoi. Du coup, j'étais triste vendredi soir. Non, mais c'est, sérieusement, en plus. Hein, j'étais là, genre, ouais,
du coup, t'as sorti les couches.
Ouais, c'est un peu le concept. Ouais, genre. J'ai sucé mon pouce recroquevillé sur mon canapé pendant toute la soirée. Après, j'ai joué au jeu et j'ai sucé mon pouce recroquevillé sur mon canapé toute la journée tellement je me suis pris une grosse fessée. Voilà. Mais c'est l'idée. C'est l'idée. Eh bien, j'ai le deuxième sujet d'actualité, donc je vais enchaîner. Comme vous le savez,
oui,
je... T'inquiète, je vais te faire un combo point, 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 pied, point, tu vas rien comprendre à ce qui t'arrive. Comme vous le savez, je déteste Sonic le Hérisson. J'exècre Sega et globalement, je chie sur tous les hérissons que je peux voir. C'est une activité relativement douloureuse, hein, mais ça vaut le coup. Surtout les bleus. Bah, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois un hérisson, maintenant, j'ai un réflexe, je shoot dedans. Je peux plus, quoi. Ça me... Voilà. Et c'est-à-dire que c'est simple, hein, pour te donner une idée, si tu me donnes un pistolet avec deux balles et que tu me mets dans la même pièce que Sonic, Hitler et Mussolini, je tire sur Sonic deux fois. Voilà. J'en suis arrivé là.
Mais pourtant, c'est toi qui testes Sonic à chaque fois.
Et pourtant, non, mais parce que je vais devenir le spécialiste de Sonic pour le dojo, je pense. Maintenant, je vais tous les acheter, les jeux. C'est décidé et je vais tous les pourrir. C'est décidé aussi. Ah, mais c'est officiel. Et donc vous n'êtes pas sans savoir que les deux prochains échecs de Sega pour Sonic sont programmés sur Wii U la semaine prochaine, sur Wii U et sur 3DS. C'est Sonic Boom,
Sonic Boom,
Rise
Sonic
of Lyrix,
Boom, Sonic Boom.
Et Sonic Boom, Shattered Crystal. Donc voilà, donc je vous le dis tout de suite, ça va être de la merde.
Crystal fragmenté.
Sûr et certain. Crystal fragmenté. Et du coup, je vais les acheter le jour de leur sortie, plein prix.
Le journalisme total.
Le journalisme total, attention là, c'est le bon jeu journalisme.
Pour soutenir la création.
C'est le Dojo SM Production.
C'est le nouveau défi. C'est le nouveau défi. Et surtout, pour accompagner cet échec cuisant qui se prépare, mais je le dis, ça va être de la merde, hein, c'est sûr. Je vous rappelle qu'il va y avoir un dessin animé qui va accompagner Sonic, le Sonic Boom. Donc, il va y avoir Sonic Boom, le dessin animé.
Il va être en France.
D'ailleurs, Sonic Boom, le comics. Pour l'instant, il est programmé qu'aux États-Unis. À mon avis, il sortira jamais des États-Unis. Il va y avoir Sonic Boom, le comics. Celui-là, c'est certain qu'il sortira pas des États-Unis, quoi qu'il arrive, parce que le Sonic, le comics en France, on l'a jamais vu. Enfin, il y a eu très très rares éditions qui sont arrivées.
Non,
en France,
on veut pas, surtout.
Et en plus, on veut pas. Et surtout, alors accrochez-vous à vos slibards, les gars, parce que là, quand même, il va y avoir Sonic Boom, les figurines.
Ouais.
C'est là les amis moches. C'est les amis
moches. De collectionner l'intégralité des figurines de Sonic Boom.
C'est les amis
voilà.
Moches.
C'est fait. C'est décidé. Eux, c'est vraiment
mais
les amis moches.
Pourquoi tu t'affiches ça?
Je fais l'effort, si tu veux, de démontrer que c'est de la merde par l'absurde. Je peux pas faire autrement.
On compte sur toi.
Tu. Non mais voilà, c'est un élan de masochisme personnel. J'ai décidé que à partir de maintenant, je pouvais plus piffrer Sonic. C'est voilà. Et donc, je le fais. Je le dis.
Est-ce
je
que
le
tu
fais.
Comptes aussi t'introduire les figurines dans le cul?
Je sais pas. Mais alors, je mettrai un petit lien vers les figurines. D'ailleurs, que c'est d'une mochitude absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a deux articulations juste pour les jambes, en gros. Donc c'est quand même, enfin pour de la figurine,
ouais,
c'est quand même un peu lamentable. Oui, mais c'est surtout que
pour les enfants aveugles, c'est-à-dire que... tu vois,
c'est les enfants aveugles, voilà. Pour les enfants aveugles et handicapés, c'est vraiment pas charitable pour eux. Tu prends un jeu vidéo qui ne marchera pas, tu fais un dessin animé qui est adossé à ce jeu vidéo, qui a quand même peu de chances de marcher du coup. Tu sors un comics qui est adossé au dessin animé. Qui est adossé aux jeux vidéo, qui a peu de chances de marcher, et tu sors des figurines là-dessus. Genre, qu'est-ce qu'ils espèrent, les mecs?
De toute façon, en plus, il n'y a pas de com dessus. Personne sait que ça sort de la semaine prochaine. Tout le monde s'en tape, il va avoir Smash Bros, et puis basta.
Attends, ça sort la semaine prochaine?
Ouais, la semaine prochaine, je crois, c'est mi-novembre.
Ça ouais, sort bah, le bon, 11, novembre 11 novembre aux États-Unis. Ouais. Et en théorie, ça devrait être le 14 novembre, ou c'est peut-être la semaine d'après chez nous.
En tout cas, une chose est sûre, c'est que sortir ça une semaine avant Watch Dogs Wii U. Ils vont avoir du mal.
Ah, ils vont avoir de la concurrence sévère. Hein.
Il y aura des packs.
Alors pareil, hein,
il y aura des
dans
packs
un élan de générosité, j'ai décidé d'acheter Watch Dogs Wii U.
Mortal Mère Teresa du jeu vidéo.
Non, je déconne, celui-là je l'achète pas. Tu vois, Sonic Boom, ok. Parce qu'il y a un moment où il... Ça fait du bien aussi de se rappeler pourquoi tu joues à des bons jeux. Sans autant, il faut jouer à de la merde pour que tu te rappelles pourquoi est-ce que t'as fait
aussi,
ça.
Hein, ça marche aussi.
Voilà. Et je vous rappelle, le plus important quand vous allez acheter Sonic, le plus important, à chaque fois que vous faites une connerie, et que vous savez que vous faites une connerie, vous l'achetez en liquide. C'est important. Faut que vous sentiez le pognon qui fout le camp. Extrêmement important.
Tu veux pas, avoir marqué à vie un débit micromania ou de l'Aftec pour Sonic Boom sur ton compte en banque?
Non, je préfère aller l'acheter en liquide. Par contre, je garde le ticket de carte bleue, enfin, je garde le ticket de caisse et je le mets dans un joli cadre. Montrer que je l'ai bien acheté.
Les deux, hein. Les deux.
Les deux. Bref, bon, sur ces entrefaits, donc, plus sérieusement, enfin voilà, on a eu l'information aujourd'hui comme quoi il y avait des figurines Sonic Boom. Voilà, je vois pas le.
Réalisé par un stagiaire vite fait pour le marketing.
Non, bah, elles sont pas si moches que ça, mais.
C'est le design.
Après, c'est le design qui est quand même. Le design de cet épisode-là, il est quand même à chier. Donc, je vois pas l'espoir qu'a Sega de. Je vois pas pourquoi ils ont mis tant de moyens que ça pour avoir le dessin animé, le comics, le machin.
Ils ont aucun espoir. Quoi. Mon avis, c'est
Mais pourquoi ils mettent autant de pognon, quoi? C'est délirant, quand même. Tu veux dire qu'eux aussi, quand ils se vautrent, ils essaient de faire les choses en grand, quoi.
C'est ça.
Ils essaient de se prendre la bonne tôle qui va bien.
Il faut un concours avec toi, en fait.
Ça, celui qui injectera le plus de pognon dans de la merde.
Eh ben putain, ils ont. Je veux dire.
Non, mais en plus, c'est les fans de Sonic qui vont l'acheter, qui vont le trouver cool, et puis voilà, quoi.
Attends, c'est quoi le dernier bon. Attends, est-ce qu'il existe un bon jeu Sonic?
Sonic Génération.
Ouais, non.
Non, c'était de la merde.
J'ai jamais été fan non plus.
Je défendrai, je l'ai bien aimé.
Le truc de Sonic, c'est. Ça a tout le temps été assez moyen. À part les épisodes Mega Drive, qui à l'époque, ils étaient cool et tout. Mais après, le reste, c'était plus que moyen, quoi.
C'est-à-dire, t'as Sonic 2 qui est un bon jeu, faut reconnaître.
Il était rapide et tout pour l'époque. Ça a changé.
Faut reconnaître que c'est un bon jeu, mais Sonic 1, c'est pas terrible. Et le 3, il y a Sonic CD que tout le monde dit, oui, c'est vrai que c'est quand même un truc pas mal et tout.
Ouais.
Ok, mais même là, t'étais dans des jeux qui étaient pas
mal. C'est comme Night, c'est pareil, ça mettait bien, quoi. Faut arrêter de déconner. Enfin.
Non, mais Night, c'est ça pue la merde dès le
départ. Il y a des fans. Hein.
C'était chiant.
Du coup, la question, c'est est-ce que ce gars a fait un bon jeu?
Oui, bah, ils ont édité Bayonetta.
Oui!
Ouais, ils ont fait Bayonetta.
Ils ont édité.
Ça, tu peux pas dire.
Et Mad
World. Ils ont édité.
Et ils ont édité quand même. Et Mad World aussi.
Et
ils éditent des trucs de Platinum.
Ouais.
Tout Platinum a été édité par Sega, sur Metal Gear Rising et Bayonetta 2.
Ouais, non, pas. Oui, ouais, effectivement. Ouais. Quasiment tout le reste. Tout ce qui est sorti, en tout cas.
Yes.
Mais bon, ça change rien. Sonic, c'est très bien.
Vu qu'on est parti.
C'est l'instant publicité, messieurs dames.
Non mais vu qu'on est parti pour parler de Bayonetta juste après, on va quand même faire une petite pause musicale avant. Voilà, mais on a. Ouais, c'est bien, vous avez introduit le sujet quasiment.
C'est beau, hein.
Ça vous introduisait plein de choses.
Attends,
c'est beau.
Parce que sinon donc... Sirard va me disputer. Instant publicité, monsieur dame, on a un super lecteur qui est un super graphiste qui lance une boîte de t-shirts old school rétro 8-bit, pardon. Et du coup, on va rebalancer un tweet en fin d'émission. Ça s'appelle B8. Et les t-shirts, ils ont l'air
alors,
super
d'ailleurs,
bien.
D'ailleurs,
il y aura le lien en fin
d'émission. Je vais faire une pub aussi pour le même gars. Et du coup, en fait, je vais faire pareil sur Nintendo Man. Et il y aura un concours pour gagner des t-shirts chez lui.
Oui. Donc, on aura aussi un petit concours. Il y aura plein de t-shirts.
Il y aura plein de concours. Faut acheter. Ouais. C'est plutôt pas mal. Hein,
il y aura plein de concours à gagner.
Ouais, on va soutenir ce monsieur en faisant,
mais
en faisant
non,
gagner
après,
des t-shirts.
Faut acheter des trucs. Faut les acheter.
Et après, faut les acheter. De toute façon, vous n'aurez qu'un seul t-shirt si vous gagnez.
Vous avez gagné la moitié de t-shirt, genre la moitié gauche. Après, on fait la moitié droite, la moitié.
Ah ouais, bâtard, ouais, tu fais gagner la manche.
Tu fais gagner des moitiés différentes, tu dois les recomposer. C'est une carte de t-shirt.
On fera des packs de collecteurs avec des étiquettes de t-shirt de rechange. C'est pour quand tu oublies que tu dois le laver à 60 degrés. Voilà.
Et après, on fera un season pass dans lequel tu auras un morceau de vêtement tous les 15 jours, hein, gratuit, si tu payes 25 euros des
pour
poches.
Mais un morceau, elle est à
pour un t-shirt Sonic. C'est important.
Sonic Boom.
Ouais, mais
hein.
Je pense que je vais regarder si je chope un t-shirt Sonic Boom ce jeu. Prochaine convention, truc comme ça, je mets un t-shirt Sonic Boom.
va te faire taper.
C'est une question de principe.
Et sinon, un truc de fou, j'ai essayé l'Alpha Devolve sur PC. Bah, franchement, les gars.
Ça a rien à voir.
Franchement, les gars, vivement que Splatoon arrive.
C'est avec bon, quelque d'accord. chose à voir.
Exactement.
C'est bien rapide.
Ça avait presque quelque chose à voir. Bon, pause musicale, sinon on va pas y arriver. Là, je vous sens parti. Je sens que cette émission va de nouveau partir en cacahuète. Ce qui n'était pas l'objectif de départ. Enfin, quoique.
Pourtant, c'est bon, bon les cacahuètes.
Donc, on va écouter. On va écouter un morceau de la bande originale de Bayonetta. Le morceau s'appelle Fly Me to the Moon. Non, pas de Sonic, non, c'est bon. J'ai eu ma dose pour aujourd'hui. Donc le morceau s'appelle Fly Me to the Moon. C'est le remix, le Climax Remix. Donc c'est le remix qui joue pendant qu'on tabasse le cul des gros monstres. Voilà, je pense qu'on peut le dire comme ça. Et voilà, ça dure un tout petit peu plus de 5 minutes et on se retrouve tout de suite après. Dance. Et donc nous sommes de retour depuis quelques secondes. Mon Dieu, on ne fera jamais de karaoké en direct.
Mais on est bon pourtant. On pas.
Non, c'est mort.
J'ai pas entendu le retour, mais ça devait être assez moche.
Tu l'as pas encore entendu, mais je te garantis qu'au montage, je me démerderai pour que ce soit le plus moche possible.
Tu vas
tu vas réussir à nous battre.
Ah, mais moi, si à chanter, vous allez le regretter, hein, amèrement. Bref, donc voyez que tout le monde est à fond sur Bayonetta, ça fait plaisir.
Enfin, sur Bayonetta, façon de parler. Hein.
Ah, pardon, bah, oui, sur le jeu, bien sûr, sur le jeu. Mais faut dire, alors voilà, j'aimerais quand même évacuer tout de suite s'il y a des gens qui nous écoutent, parce que c'est un peu compliqué vu qu'on a un petit problème technique, j'aimerais évacuer tout de suite un truc, c'est oui, Bayonetta est le stéréotype de la secrétaire salope, c'est bon, c'est fait, voilà, on l'a dit, ben, maintenant on passe à autre chose.
Cette émission est Peggy 18.
Non, elle est Peggy 16 pour Bayonetta 2. D'ailleurs, j'ai pas compris ça, pourquoi c'était Peggy 16 pour Bayonetta 2 alors que Bayonetta 1 est Peggy 18.
Parce que Nintendo, c'est pour les enfants.
C'est ça. Ouais, il y avait Mario sur la jaquette, c'est bon, on partirait 2 ans.
Ça me paraît parfaitement cohérent. Donc,
c'est Peggy, le 1 est Peggy 18 parce qu'il y a les costumes de Peach dedans.
Il était déjà Peggy 18 sur Xbox. Et il y avait pas
oui, mais là, il est vraiment Peggy 18.
Non, ouais, c'est sûr, là.
C'est vrai Peggy 18.
Peggy 18 plus Improved.
Là, tu vois tout.
Bref, donc Bayonetta, alors Bayonetta 2, du beat'em all, j'ai envie de dire classique, même si c'est pas tellement classique, on va dire que c'est, je crois que c'est le mec qui a fait Devil May Cry, tu me corriges si je dis des bêtises. En
c'est
fait.
Ça, c'est ça.
Voilà. Hideki Kamiya.
Hideki Kamiya, et donc c'est du beat'em all avec de l'enchaînement, arme blanche, arme à feu, parce que c'est quand même vachement plus marrant comme ça. Avec des gros monstres et avec du timing de connard, notamment pour faire les esquives, puisque l'un des principes du jeu, c'est ce qu'on appelle le witch time, donc l'envoûtement en bon français. C'est-à-dire que quand on esquive une attaque au dernier moment, je sais pas exactement combien il y a, mais j'ai l'impression que sur le premier, il y a à peu près 15-20 frames pour esquiver, en gros, un petit peu plus, un petit peu moins. Sur le deuxième, c'est un petit peu plus large, et donc quand on fait une esquive petit peu au dernier moment, et ben on passe dans une espèce de bullet time, tout ralenti, et donc on peut commencer à enchaîner comme un gros goret tous les angelots qui nous attaquent. Voilà, je sais pas si tu as un truc à rajouter en termes de gameplay, je pense que c'est un bon résumé.
On a plus ou moins fait le tour. Pour le witch time, ça reste quand même essentiel, hein. c'est pas un gimmick ou un truc qui facilite le jeu, puisqu'il y a des boss, si tu veux pouvoir les tabasser, ben faut le faire. Faut les envoûter et ralentir le temps pour pouvoir leur mettre quelques combos, parce que sinon ils se barrent. Genre rien à foutre.
Mais tu peux quasiment, effectivement, il y a des ennemis du jeu Enfin, si tu les envoûtes pas, tu les touches pas, quasiment pas.
Alors, c'est encore plus vrai dans le 2, où t'as des boss... le boss du chapitre 4, entre autres, pour ceux qui sont arrivés.
Ah, le spoiler.
Ben, non,
il y a un boss dans le chapitre 4.
Oh, merde. Il y a des boss dans le jeu, quoi.
Il y a des chapitres.
Il n'y a pas que des boss dans votre pantalon quand vous y jouez.
Voilà.
Donc bref, il y a des boss, si tu les envoûtes pas, grosso merdo, ils sortent des combos instantanément et ils t'en mettent plein la gueule juste derrière.
Alors, je sais pas pour toi, mais moi, il y a des boss, même quand je faisais de l'envoûtement, je m'en prenais quand même plein la gueule. Hein.
Oui, non, mais après, le jeu est quand même plutôt dur. Il y a du challenge, il est pas punitif dans le sens où t'as quand même pas mal de checkpoints. Quand tu meurs, tu reviens avec toute ta vie, et même pendant les boss, t'as des checkpoints en plein milieu.
Oui, c'est vrai, il est pas difficile, il est exigeant.
C'est juste qu'à la fin, il te mettra une statue en pierre et tu l'auras mauvaise.
D'ailleurs, alors la statue en pierre, c'est pareil, j'ai pas super compris. Alors le principe en fait du jeu, c'est quand même, ça reste un petit peu comme Wonderful 101 pour ceux qui ont suivi.
C'est même exactement la même chose.
Exactement le même principe. Ça reste
c'est un jeu
de score.
C'est le même gars qui a fait le jeu. Hein.
Ah oui, ça c'est toujours le même gars.
Le même gars a fait Wonderful 101 aussi.
Les principes sont les mêmes, mais Devil May Cry avait une idée un peu similaire. Sauf que c'était pas à tous les combats que t'avais des scores, c'était à la fin de chaque mission.
Mais du coup, c'était plus... Enfin, je sais pas, c'est peut-être un peu moins stressant là, parce que finalement, tu sais tout de suite si t'as merdé ou si t'as pas merdé. Et comme t'as des checkpoints très régulièrement, tu peux même recommencer le...
Wonderful 101 était aussi assez généreux au niveau des checkpoints. Mais, moi, ce que je trouve un peu plus... Enfin, les deux jeux ont plus ou moins les mêmes principes. Bayonetta est plus basé sur l'esquive au niveau de la défense que Wonderful 101. Pour moi, la grosse différence entre Bayonetta et Wonderful, c'est que Bayonetta est nettement plus précis dans ce que tu peux faire, parce que t'as pas à gérer les transformations avec le stick droit. Et moi, ça a été une source d'une certaine frustration quand je les réussissais pas dans Wonderful. J'aime beaucoup le jeu, mais pour moi, Bayonetta est quand même.
Bayonetta, ça se rapproche d'un jeu de combat en fait. Hein. Au niveau des combos, c'est clairement. C'est un jeu de combat quoi. Plus du Tekken, on va dire. C'est du 3 fois sur 1 et à la limite, si tu veux. Mais c'est plus un jeu de combat qu'autre chose, en final. Enfin, moi, en tout cas, je le prends comme ça. Hein.
Bah, t'as quelques petits trucs, puisque quand tu fais des avant, enfin deux fois la même direction, genre des avant-avant-point, avant-avant-pied, tu vas faire une espèce de.
Ce que je veux dire, c'est comparé à d'autres beat'em all. Il y a beaucoup plus de combinaisons, beaucoup plus de coups différents. Enfin, à Bayonetta, je sais pas, dans le 2, je sais pas comment il y a de. Voilà, je sais pas comment il y a de combinaisons différentes, mais c'est hallucinant, quoi. Comparé à d'autres jeux où t'as un coup de poing, un coup de pied, et puis basta, quoi.
Oui, mais enfin, on n'est plus dans les années 90 maintenant, un coup de pied.
Joue à God of War, tu verras que.
J'ai joué à God of War 2 juste après Bayonetta, je me suis fait chier.
Ah bah oui, non, mais ouais, c'est
pas la même chose. Alors, par contre, du coup, parce que les combos ont aussi une énorme importance, puisque c'est, comme on disait, c'est un jeu qui est énormément basé sur le score. Le score qui est donc divisé en trois catégories, c'est pas prendre de dégâts. Il faut prendre le moins de dégâts possible, on va dire zéro dégâts. Ensuite, il faut aller le plus vite possible. Donc ça veut dire faire les combos les plus destructeurs possibles, ce qui n'est pas forcément toujours facile non plus, en fonction des ennemis qu'on croise et de la façon dont ça se passe. Et il y a aussi varier énormément ces combos. Et c'est aussi pour ça, un peu la manière d'un Devil May Cry, où on avait il fallait systématiquement faire des combos stylish pour arriver à avoir décroché le rang S sur chaque chapitre. Là, c'est pareil, pour décrocher le platine, enfin la note maximale à chaque chapitre, bah, il faut obligatoirement varier le plus possible ses combos, ce qui fait que, enfin, moi c'est la partie que je trouve la plus difficile, parce que c'est vrai qu'une fois que t'as trouvé un ou deux combos qui sont très efficaces, ça te fait quand même un peu chier de varier pour faire des trucs moins efficaces. Après, je sais pas Antix comment tu l'avais vu ça, mais j'ai du mal à, je trouve que c'est quand même une grosse contrainte ça, le fait de varier, c'est pas forcément facile.
Alors, c'est pas que varier, parce qu'il faut aussi maintenir le combo, c'est-à-dire qu'il faut surtout pas attendre entre deux coups, enfin c'est pas comme un jeu de baston justement où une fois que t'as deux touches à l'adversaire, ton combo il est terminé. Là, tu as encore un peu de temps pour remettre un coup entre deux enchaînements, ce qui permet de maintenir ton score. Parce qu'en fait, tu vas pas avoir un nombre de hits. C'est chaque coup un certain nombre de points et tu vas cumuler ces points. Et lorsque le joueur a dit t'as plus tapé, je vais te mettre ton score, et enfin, il va tout cumuler et il va donner les points à la fin. Et du coup, enfin moi, ce que je conseille, c'est de pas trop se préoccuper de ça au début du jeu. En tout cas, quand on débute pour la première fois sur Bayonetta, et vraiment essayer de se concentrer à faire les esquives qui déjà te permettent d'avoir plus de points. Donc, si tu
et c'est déjà pas forcément évident.
C'est ça. Déjà essayer de faire venir le niveau sans mourir avant de se préoccuper du score, c'est pas mal parce que surtout dans le premier, on peut mourir assez facilement.
D'ailleurs, je trouve le premier vachement plus dur, moi.
Ah oui, il est plus dur. Hein. J'ai fait le premier, ouais. Juste après le deuxième. Les timings sont moins sympas et t'as des ennemis qui te prennent plus facilement dans des combos qui font bien mal. Hein.
Ouais, il vaut mieux le faire dans l'ordre.
Je confirme qu'il vaut mieux le faire dans l'ordre. Moi, j'ai fait Bayonetta 1 avant de faire Bayonetta
2. Moi, je conseillerais presque dans le sens inverse, mais parce que le 2 est plus simple.
Mais le problème, en fait, c'est que le. Enfin, je sais pas si ça vous fait cette impression-là aussi, mais. Le 1, je le trouve. Alors, ce qu'on disait un petit peu hors antenne, c'est pas un jeu punitif, parce qu'effectivement, c'est généré en checkpoint. On recommence toujours avec toute sa vie, on a continué illimité. Donc, voilà, même si on se prend une grosse fessée, et il y a certains boss sur lesquels j'ai pris 5, 6, 7, 10 continues d'affilée à crever, à chaque fois, on arrive à progresser un peu, et du coup, on n'est jamais découragé. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Il y a un des boss où, je te dis, à chaque fois, j'arrivais à lui manger un tiers de barre de vie en plus à chaque continue, donc du coup, j'étais vraiment encouragé à continuer. Par contre, je trouve que les timings sur le 1 sont absolument redoutables. Même à la fin du jeu, même à la toute fin, je passais peut-être 3 witch times sur 4, grand maximum, donc il y avait toujours un quart des esquives que j'arrivais à foirer, quoi.
Ouais, c'est pas toujours évident. Et puis le 1 était... Enfin... Je pense que le fait que Nintendo ait édité le jeu, là, ils se sont arrangés aussi pour qu'ils soient un petit peu plus simples. Mais c'est un avis personnel. Et puis il y a d'autres petits trucs dans le 1 et qu'il n'y a pas dans le 2, c'est que le 1 a pas mal de niveaux où le décor peut infliger des dégâts. Et moi j'ai eu quelques morts comme ça en y rejoignant et c'est extrêmement énervant.
Oui, les fameuses séquences de plateforme, si tu tombes, tu perds de l'énergie alors que là dans le 2 tu les as pu. Il y a aussi un autre truc, alors c'est peut-être une impression aussi, mais j'ai l'impression que tu sais tous les passages où tu dois bourriner sur le bouton X, Y ou A.
Ouais.
J'ai l'impression que c'est pareil, les séquences sont plus courtes.
Dans le 2 ou dans le 1 ?
Dans le 2. C'est que quand tu fais un super méga incantation qui fait jaillir, qui fout Bayonetta à poil, ça c'est important,
Très important.
Et qui fait jaillir un monstre, j'ai l'impression que dans le 1, il va falloir vraiment matraquer le bouton comme un gros barbare.
Dans le 2, ils ont fait que ce soit plus rapide, parce que pas plus mal d'ailleurs. Ils ont aussi viré les QTE qui tuent en un coup, il y en avait 4 dans Bayonetta 1, mais ils étaient extrêmement énervants.
Oui, aussi, ouais. C'est pas plus mal.
Ça pour dire que, enfin, pour moi, pour avoir fait les deux d'affilée, la remarque principale que je me suis faite, c'est qu'en gros, dans Bayonetta 2, ils ont enlevé tout ce qui, à mon avis, était en trop dans le 1 et qu'ils ont voulu mettre, histoire de varier un peu, genre les phases de plateforme.
Les fameuses phases, la phase à Outrun.
C'est ça, les phases bonus, elles y sont aussi dans le 2, mais elles sont vachement mieux faites. D'ailleurs,
elles sont vachement plus courtes, non ?
Elles sont plus courtes, elles sont mieux faites aussi. Hein. Et pour ceux qui ont terminé la phase en jet, qui est vers la fin du jeu, je vous conseille d'acheter le costume de Star Fox et de la refaire. Une bonne surprise à la clé.
Mais attention, spoiler.
Ah, je le dis, non, mais faut que les gens le sachent parce que ça vaut le coup. Ça vaut vraiment.
Il y a clairement une. Là, ce truc-là, c'est la grosse demande à Nintendo. Genre, est-ce qu'on peut faire ça, s'il vous plaît ?
S'il vous plaît, on peut le caser.
Pour le prochain jeu, s'il vous plaît.
D'ailleurs, je trouvais que la phase était plus intéressante avec le costume de Star Fox que dans la version d'origine, mais bon. Et en fait, voilà, Bayonetta 2, c'est vraiment pour moi la version épurée du 1 qui va à l'essentiel, c'est-à-dire la bagarre. Et ce que le jeu fait de mieux. Ce qui fait que le jeu est, à mon sens, mieux rythmé, bon, plus court aussi, je pense, de 1 ou 2 heures de moins. Mais les monstres sont plus variés d'ailleurs, les boss sont plus réussis, et en fait, finalement, moi j'ai joué.
Moi je le trouve épuisant en fait. J'ai pas fini le jeu, hein. Le 2, j'ai pas eu le temps de trop y jouer. Mais j'ai joué 5 heures, un truc comme ça, 4-5 heures.
Ouais.
Et je le trouve épuisant en fait, comme le 1. Je retrouve le même plaisir en fait. C'est vraiment, tu joues et puis, putain, mais t'as envie d'y arriver quoi. T'as envie d'avoir ta médaille platine, machin. T'y vas à bloc quoi. C'est pas genre, je joue à Mario ou à d'autres jeux, je suis affalé dans mon canapé et puis, je joue tranquille. Là, je suis, c'est limite.
À bloc.
Enfin, ouais, et puis en avant, enfin, en vraiment en avant, quoi. C'est vraiment différent. C'est un gameplay qui est ultra cool, quoi, et qui est, malheureusement, je le retrouve pas vraiment moi dans les autres jeux, quoi. Ça fait bien longtemps en fait que j'ai pas autant aimé un jeu, en fait.
Je pense que moi, il n'y a pas d'autres jeux qui arrivent à être aussi. Avoir ce fun dans le gameplay, cette simplicité et qui donne envie de revenir et d'essayer d'avoir tous les trucs.
Si moi il y avait Vanquish que j'ai bien aimé.
Et même Vanquish, j'ai pas réussi à y revenir. Hein.
Ah par contre oui, j'ai pas pareil, je suis pas revenu dessus parce que j'accroche pas plus que ça le personnage, c'est des random persos, t'es une espèce de robot à la con là, enfin un mec
qui prend une armure et puis
voilà.
Aussi.
Voilà, c'est.
Ouais, l'histoire de Bayonetta, c'est pas génial.
C'est différent, parce que dans Bayonetta, c'est boss sur boss quasiment. T'as pas beaucoup d'ennemis à la con.
D'ailleurs,
si, t'en as pas mal quand même.
Je pose la question parce que j'ai quand même une impression un peu bizarre. Alors, moi j'ai fini intégralement le 1 et je suis arrivé à peu près à un tiers du 2. Donc, j'ai quand même à peu près une bonne idée des différences entre les deux, mais. Antix, puisque toi tu as refait. Alors tu avais bien retourné le 1 et t'as refait le 2 puis le 1, t'as fini les deux du coup ?
J'ai fini les deux, ouais.
C'est une idée où c'est vraiment très déséquilibré au niveau des chapitres dans Bayonetta 1, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'il y a des chapitres qui sont ultra faciles, même vers la fin, c'est-à-dire tu prends le chapitre 14, c'est la balade, alors que le chapitre 15, tu te fais fister, mais un truc de.
Le chapitre 15, c'est la tour, hein.
Ouais.
Oui, non, c'est normal en même temps.
Avec le boss de fin, quoi.
Ouais, non, mais voilà, non, mais t'as des trucs quand même super bizarres. Le boss de fin du 1, j'ai pas trouvé si dur que ça, mais non, t'as vraiment des chapitres sur lesquels tu vas te balader parce que c'est un chapitre où t'as un boss, donc finalement, une fois que t'as compris à peu près le pattern, voilà, quoi, tu lui frites la gueule. Et le chapitre d'après, c'est un truc où tu vas avoir 15 versets avec les ennemis ultra durs et t'es obligé de tout enchaîner d'un coup. Et enfin, je sais pas, je le trouve ultra déséquilibré de ce point de vue-là. Le 1, c'est vraiment horrible.
Ah,
quoi.
C'est le 2 a le même problème. Enfin, le même problème. Je sais pas si c'est vraiment un souci, enfin moi oui le 1 effectivement j'avais cet aspect. En fait le début t'as l'impression d'avoir pas mal de choses et une fois que t'arrives au chapitre
4-5
pas 4-5 j'aurais plus dit 8-9 où commence à recycler les décors et les ennemis.
Ouais enfin, c'est aussi ça.
Tu commences à sentir que ouais l'équilibre est pas trop là. Après moi les chapitres consacrés à des boss géants ça me dérange pas, moi je trouve ça plutôt fun.
Mais ben, la même chose c'est... Mais du coup tu te retrouves avec un chapitre super facile, t'as un chapitre de boss qui va durer 10 minutes et tu vas peut-être mourir une ou deux fois la première fois. Et à côté de ça, avant, t'as fait un chapitre où il y a quasiment que du combat. T'as un enchaînement de 7, 8, 10 vers 7 combats. Et chaque combat, t'as un ennemi qui est pas forcément toujours facile. Et puis tout d'un coup, le verset suivant, t'avais eu tel ennemi qui était difficile, on t'en met 2. Et puis le verset d'après, on t'en met 3. Ben, tu vois, je trouve que la progression est un petit peu laborieuse dans certains cas.
C'est un peu bizarre. Et je trouve, enfin, le 2 était quand même peut-être un peu plus équilibré de ce côté-là. Enfin, notamment sur la fin où, au début, t'as encore l'idée de, tu fais deux chapitres assez longs et un chapitre de boss. Puis j'arrivais à peu près à la moitié ou deux tiers du jeu, ils arrêtent ce schéma-là et à peu près tous les chapitres font à peu près la même longueur en fait. Même le boss final a pas un chapitre entièrement consacré, par exemple, contrairement à Bayonetta.
D'accord, donc effectivement, je suis content de ne pas être le seul à avoir cette impression-là que le jeu était assez haché.
Wonderful 101, c'était à peu près pareil, mais c'était où tu faisais deux gros niveaux et tu faisais un niveau de boss, mais comme c'était des sous-niveaux, ça passait un peu mieux.
Parce que là, voilà, moi, Bayonetta 1 m'a laissé une impression un petit peu bizarre de ce point de vue-là. Pareil, je sais pas si vous avez essayé de découvrir les versets cachés, les niveaux, enfin les défis cachés, les niveaux, les half-lines et les
ils sont bien plus faciles à trouver dans le 2.
Ouais, dans le 2, c'est plus simple. Ouais.
J'étais allé sur GameFox parce qu'au bout d'un moment.
Il y en a, c'était vraiment planqué. Hein,
il y en a, c'est fallait que tu te rotas toute la zone dans l'autre sens et t'avais le portail au bout, quoi.
Ouais, c'est un truc que j'ai vraiment pas compris parce que finalement, dans le 2, d'abord, les défis sont un petit peu plus faciles. Moi, dans le 1, en fait, j'ai découvert qu'il y avait ces trucs-là parce qu'il y a un moment où il y en a un qui est quasiment sur ton chemin, quoi. Et je me suis dit, tiens, oui, il y a des niveaux comme ça, c'est bizarre.
Ils sont super cachés dans le 1, ils sont bien plus durs que dans le 2.
C'est pareil pour les versets cachés, il y a des trucs, c'est un peu n'importe quoi, quoi. Faut revenir en arrière en étant en Witch Time à tel moment pour arriver à faire.
Ouais, dans le 2, ils sont un peu calmés là-dessus, mais t'en as certains. C'était d'ailleurs dans le niveau 2 du 2 où il y en a un, j'ai mis des plombs à le trouver, quoi. Parce que c'est comme
tu les as cherchés en plus.
Ah, j'ai passé une heure sur le premier niveau du 2.
Pour chercher tous les versets cachés.
J'ai tout trouvé, j'ai augmenté 3 fois ma barre de vie.
Oh.
Je suis un peu pareil en fait. Hein. Je me mets en mode Metroid Prime en fait, hein, quand je joue à un jeu.
Bah, on va dire que
je vais partout.
Tu fouilles partout.
Ouais, je fouille partout quoi. Dans la flotte et tout. Enfin, partout quoi.
Et puis surtout, cette fois, contrairement à Bayonetta 1, j'étais au courant qu'il y avait des trucs cachés un peu partout.
Ouais, voilà, en fait, ouais. Le problème c'est ça, c'est que j'étais au courant à partir du chapitre 10, quoi. Donc dans le 1, je me suis dit, ah merde, il y a des trucs cachés. Bon, ben tant pis.
Mais ouais, mais globalement, pour moi, ça fait partie des. C'est un des trucs qui fait que le jeu, j'y reviens volontiers, c'est que voilà, t'as quand même des choses à découvrir. Même si je suis pas très recherche, je trouve ça toujours cool de trouver les défis cachés.
Quand on dit recherche, c'est pas non plus. En général, il suffit de bien regarder dans le décor ou d'aller fouiller dans les petits coins qui sont pas sur le chemin.
Ouais, on est loin de Metroid Prime. Hein. C'est pas, t'es pas obligé de scanner des conneries pour trouver quelque chose quoi. Ça se voit quoi. C'est des espèces d'halo de lumière ou un bouquin. Ou...
Oh, une place ronde. S'il y avait une bagarre ici.
Ouais, voilà.
Oh, dis donc, un endroit bien dégagé. Ah, ce serait quand même bête qu'il y ait des ennemis. Hein.
Ah bah mince alors, qu'est-ce qu'il faut là ?
Ça reste un beat'em all en même temps. C'est un, voilà quoi. C'est un couloir où tu bousilles des monstres. Hein. Enfin.
Oui, ça reste un truc comme ça, t'as pas besoin de beaucoup de finesse.
Et Bayonetta le fait très bien.
C'est pas un monde ouvert, donc c'est pas fait pour ça.
De toute façon, on est d'accord, l'intérêt numéro 1 de ce jeu-là, ça reste quand même les combats, c'est-à-dire le fait que les décors se recyclent, c'est pas fondamentalement gênant.
Ouais, encore dans le jeu, j'ai l'impression que
c'est plus les boss qui se recyclent qui m'ennuient.
Les boss qui se recyclent,
le 2, il y a quasiment pas de recyclage. Il y en a à un moment, mais c'est justifié par le scénario. Le scénario justifie à peu près ce qu'il a envie.
Ouais, voilà, c'est un peu ça. Je pense qu'il y a un moment quand même où il va falloir aborder le scénario, parce que...
Est-ce qu'on rit un bon coup?
Voilà, non mais c'est ça. Je vais être très honnête. Le scénario du 1... comment dire? C'est pas que j'ai pas compris, hein. Alors d'abord, j'en avais pas grand-chose à foutre, faut quand même être très très honnête. Mais sans déconner, faut qu'ils arrêtent avec le saladier de coke qui est au milieu de la table. C'est pas bon ça dans les réunions. Hein.
Je crois qu'il va quand même en lancer en l'air et saupoudrer sur tout le personnel. Hein,
ouais, non mais c'est ça, c'est juste pas gérable comme scénar quoi.
Ah non mais en plus non mais le scénar est pas compliqué du tout. C'est juste que ils font des cinématiques qui sont.
La mise en scène
n'est pas facile à comprendre. Et au final, tu t'emmerdes juste à entendre parler alors que tu voudrais juste voir Bayonetta flinguer des anges et le faire toi-même juste derrière.
Ouais, non, mais en fait, le problème, c'est que...
Ça, c'est drôle, par contre.
Voilà. Le problème, c'est que t'attends quand même les cinématiques au cas où elles montreraient un bout de nichon. Voilà.
Ah oui, d'ailleurs, on parle des cinématiques de Bayonetta, celles qui introduisent les ennemis dans le premier. Tu dois toujours esquiver juste après la cutscene. Toujours. Tu te fais attaquer direct.
Ouais, c'est vrai. Ça, par contre, c'est vrai que c'est extrêmement agaçant. C'est-à-dire qu'on te présente un boss et tout d'un coup, paf ! Le machin, il te chie sur la gueule, quoi.
C'est ça qui est classe.
Non, c'est pas classe.
Non, c'est pas classe. Parce que quand tu meurs à cause de ça, c'est très chiant.
En plus, la cinématique, tu sais jamais vraiment quand elle finit, donc t'as jamais le temps d'esquiver le premier truc. Tu sais pas trop par où ça va arriver. Tu te fais baiser à tous les coups, c'est dégueulasse.
Par contre, je suis pas trop d'accord pour dire qu'elle est assez, genre, elle est tout le temps à poil et tout, quoi. Ses cheveux se lèvent, donc du coup, non.
On va pas parler de ce genre de choses, on l'a dit.
Non, mais les gens qui ne connaissent pas bien Bayonetta s'imaginent vraiment qu'à un moment donné, c'est bon, t'as plus de fringues, t'as plus rien, tu joues à poil, quoi. Et c'est pas du tout le cas, en fait.
Tu fais ce que tu veux chez toi quand tu joues.
Mais ça, c'était la grosse erreur de Sega sur la promotion du premier où. Ils ont vraiment plus insisté sur le côté sexy de l'héroïne que sur la bagarre.
Là, c'est les poses en fait qui sont tu chopes une grosse lance d'un ennemi, parce que tu peux choper les armes des ennemis aussi par moment. Tu chopes une grosse lance, tu fais un coup à la con. Serenza commence à faire de la pole dance autour de la.
Spoiler alert.
Ah, spoiler alert, c'est un mot. J'ai dit un mot qu'il fallait pas.
Voilà, cherchez pas. De toute façon, le scénario il est gros. Tu le vois arriver gros comme une baraque à frites.
Il est drôle juste pour les répliques de Bayonetta et les méchants, enfin surtout le méchant du premier, fantastique.
Voilà, c'est ce que Camilla avait dit aussi, hein, quand il écrit des scénarios, c'est aussi pour agrémenter le gameplay, c'est pas pour faire un truc
alors, par contre, si la prochaine fois il pouvait éviter de faire des cutscenes qui durent 10 minutes, ce serait quand même sympa.
Pas mal.
Et dans le 2, ils sont absolus de les faire à rallonge, ça c'était pas mal.
Voilà, je vais citer John Carmack, un scénario dans un jeu vidéo, c'est comme un scénario dans un porno, tout le monde s'attend à ce qu'il y en ait un, tu t'attends pas à ce qu'il soit bon. Je pense que Bayonetta illustre très très bien ce principe-là. Hein.
Et voilà, exactement.
Avec des scènes de pole dance en plus.
Et vous avez
ça, mais...
Vous avez touché au mode multi?
Non.
Pas encore.
Ah, malheureusement pas encore, parce que tu veux, le mode multi, moi je suis obligé de le faire avec ma femme, et ma femme, le design, elle aime pas.
C'est un mode multi online ou
c'est pas que en ligne le mode multi?
C'est que en ligne. Hein.
Ah merde, je pensais que c'était en local.
Non, je crois que c'est que en ligne en fait, justement.
Ouais, je crois aussi. Ouais.
Parce qu'ils voulaient garder une framerate assez, assez rapide en fait.
C'est ce qui me fait penser, mais il y a beaucoup de monde qui disait le portage géant, il est super et tout, mais j'ai vu des moments où ça ralentissait plus alors que ça avançait. Le portage géant. Ouais. Il y a eu beaucoup de retours comme quoi il était, ah, c'est la meilleure version, c'est même plus fluide que le 2. Et j'ai des moments où ça ralentissait, mais genre c'était visible quoi, c'était vrai ralenti, c'était pas le jeu. Et le 2 par contre, c'est jamais arrivé, j'étais en train de me dire, mais ils sont foutus quoi avec le portage.
Tant qu'on est dans la technique, pareil, corrigez-moi si j'ai l'impression que c'est éventuellement une idée, j'ai l'impression que le 2. Alors, il y a un truc très clair, c'est que le 2 est beaucoup moins sombre que le 1, ce qui est quand même beaucoup plus agréable.
Ouais, c'est des teintes bleutées. Bleu
c'est,
et vert.
Voilà. C'est plus des teintes bleu, vert, effectivement, c'est beaucoup, beaucoup plus agréable que le 1, qui est vraiment très, très, très gris,
très,
marron.
Très filtre pisse.
Très, ouais, voilà. Moi, personnellement, c'est vrai que cet aspect-là m'a un petit peu, voilà, j'étais pas forcément super, super réjoui en voyant ça. Mais j'ai aussi l'impression que le 2 est un poil plus beau que le 1, c'est pas grand-chose, mais j'ai l'impression que les textures sont un poil plus
beaux.
Ah,
c'est
même
sûr. C'est même sûr. Ouais, il est largement plus beau, plus rapide, plus fluide.
Les effets sont plus jolis et des trucs que j'ai remarqué d'ailleurs sur le portage géant, c'est que des fois tu sens que le jeu a été fait sur des consoles avec une résolution de 720p avant d'être porté
à l'attaque basse.
Il y a des fois où
les
pictos n'étaient pas très très beaux, hein. C'était un peu pixelisé.
Ouais, après,
ce que j'ai remarqué surtout, c'est que les ombres sont nettement moins crénelées sur le Bayonetta 2 que sur le Bayonetta 1, par exemple. Et sur le 1, ça se voit vraiment, quoi. Il y a vraiment des ombres très, très, très crénelées, alors que sur le 2, elles le sont nettement moins. J'ai pas dit qu'elles l'étaient pas.
Hein. Alors, par contre, les vidéos de Bayonetta 2 sont souvent faites aussi avec le moteur du jeu. Et par contre, ouais, les ombres sont quand même assez crénelées aussi, hein, dans les vidéos. Enfin, j'ai l'impression que j'ai une version roumaine peut-être, mais ah oui, beaucoup moins. Ouais. Mm. Bon, après, c'est pas ouf. Hein. Enfin,
le jeu est pas parfait. Hein.
Oui. Il est pas parfait techniquement au niveau du graphisme, vraiment. On peut toujours faire mieux de toute façon. Mais au niveau du gameplay, sérieux quoi. Je crois que c'est le meilleur. Enfin, pour moi, c'est le meilleur beat'em all de toute ma vie quoi.
D'ailleurs,
les deux là.
Bah, surtout le 2, moi, il y a un truc qu'ils ont rejeté que je trouve très bien, c'est l'apothéose de l'Umbra, qu'on n'en a pas encore parlé, qui te permet, en ayant rempli une barre de magie, de faire des super effets avec tes armes.
Bah, d'avoir en fait le... Donc, je ne sais pas si on a expliqué ça, mais en fait, voilà, quand tu fais un combo, tu commences par exemple, tu fais un 3 points, puis un coup de pied. Bah, les 3 points, c'est des 3 points entre guillemets normaux, et le coup de pied, ça va être ce qu'ils appellent une incantation, c'est-à-dire que tu vas avoir un pied géant, par exemple, qui va arriver dans la face de l'ennemi et qui fait beaucoup plus de dégâts.
Voilà, tu ne vois que des incantations, et à la place de l'incantation, tu auras un gros monstre qui apparaîtra à l'écran, et qui fera le ménage généralement.
Voilà. Et c'est vrai que par rapport au 1 où la jauge de magie. Finalement, sert pas à grand chose. Elle sert à faire les attaques sadiques,
donc qui à marche achever, pas contre les boss.
À achever les ennemis, mais ça marche pas contre les boss, donc c'est quand même un peu voilà. Du coup, il y a des boss sur lesquels effectivement dans le 1, t'as tendance à accumuler de la barre de magie quand t'es pas trop mauvais, mais tu t'en sers pas. Là, au moins, la barre de magie, tu peux la consommer entre guillemets à tout moment, et surtout, tu consommes pas l'intégralité de ta barre de magie pour faire juste une attaque sadique. Voilà, tu peux quand même la distiller un petit peu. Si t'es un petit peu dans la merde, tu peux consommer un peu de barre de magie pour faire des trucs. Quoi.
Après, l'avantage de l'attaque sadique, c'est que généralement, le mec qui se la prend, il est mort. Ce qui n'est pas forcément le cas des attaques en apothéose d'Umbra qui vont surtout faire être plus large. Enfin, toucher plus, une plus grande zone que
t'es capable quasiment de toucher tous les ennemis à l'écran.
Ah, oui.
Voilà, enfin, si t'as un gros groupe d'ennemis, personnellement, je préfère. Enfin, voilà, la stratégie du 1, c'était d'arriver à faire une attaque sadique sur le plus gros ou le plus emmerdant. Pour t'en débarrasser le plus rapidement possible et puis finir les autres un peu au déboté. La stratégie sur le 1, sur le 2, clairement, c'est dès que t'as l'apothéose de l'Umbra, tu te fous en plein milieu et tu bourrines au hasard un peu tout le monde, et en plus tu fais des combos de bâtard derrière en termes de score. Donc je sais pas, je trouve ça un peu plus bourrin mais un peu plus efficace.
Bah au moins ça donne un peu de gestion de la barre de magie. C'est pas plus mal, et puis ça permet aussi de vraiment taper les ennemis un peu gros qui, eux, pour le coup, vont être un peu assommés par tes attaques, alors que en apothéose, alors que c'est pas le cas avec les attaques normales, par exemple.
Alors, sauf certaines attaques normales.
Bah, sauf celles qui finissent sur une incantation, généralement.
Moi, j'ai découvert à la toute fin du jeu que les incantations ne touchaient systématiquement les ennemis.
Ah oui, vraiment, on les cherchait.
Bah oui, mais moi, je savais pas au départ. Donc,
tu découvres en jouant, hein. Bah c'est, ouais, mais c'est, là, c'est pour ça que je dis, si tu veux du pur platine dans le jeu, vaut mieux finir le jeu au moins une fois, quoi.
Bah, de toute façon, je pense que tu peux pas faire autrement. Si ouais, tu veux vraiment faire du score.
Faut le maîtriser un peu avant, faut
avoir connaître les ennemis, connaître les attaques, connaître tes armes.
Ouais, t'as les armes aussi. Connaître les timings. Ouais, vu que t'as pas mal d'armes différentes.
Et que dans le 2, c'est pas les mêmes, du coup.
Ouais, aussi. Ouais.
Il y a une faux dans le 2.
Il y a une faux. Et est-ce qu'on peut faire de la pole dance autour de la faux?
Non.
Ah putain, moi je la prendrai pas alors. Juste pour ça.
Ah, d'ailleurs, tiens, tant qu'on y est, parce que, alors là, attention, spoiler alert, donc la meilleure combo d'armes sur le 1, monsieur Antix, qui est un grand spécialiste.
Katana, griffe.
Voilà, et sur le 2
J'ai pas encore trouvé, c'est un peu plus équilibré déjà.
Ah merde.
Mais moi j'aime bien avoir épée au bras, épée aux jambes.
Ouh.
J'aime bien tout découper.
Voilà, c'est vrai que c'est très efficace.
Un épéiste.
Non, j'ai pas trouvé de combinaison vraiment, vraiment forte dans le jeu. Moi, je sais qu'il manque une arme. Je dirais pas laquelle c'est. Pour laisser la surprise. Il faut finir le jeu en difficile pour l'avoir.
Oh putain, c'est pas.
C'est l'épée qui pique.
C'est l'arme caméo, hein, je le dis tout de suite.
Je rappelle quand même que l'épée. Finir le jeu en normal, c'est déjà pas forcément.
Dans le 2, c'est plus simple de le finir en normal.
Voilà, mais dans le 1, c'est pas forcément super évident. C'est-à-dire que moi, je me suis baladé sur les 3-4 premiers chapitres. Je me suis dit, bon, ça va être peinard. À partir du 5, j'ai commencé quand même à prendre une grosse fessée. Et je crois que c'est à partir du chapitre 8 ou 9, où là, c'est pas une fessée que j'ai prise, c'est un gros fist. Parce que voilà, moi, on m'a dit, à partir du poignet, faut arrêter d'insister, tu vois. Et le jeu, il a continué d'insister, si tu veux.
Il est le plus impossible, là.
Oui, et il y a moyen de commencer directement en difficile
Non, il faut débloquer le mode difficile.
Et dans le 3, oui, c'est le. Dans le 2, tu l'as direct.
C'est la mode 3ème apothéose, c'est ça?
C'est ça.
Parce que dans le 1, t'as un mode, voilà, t'as un mode débutant où les esquives sont automatiques, si je dis pas de bêtises.
Je crois que c'est ça, ouais.
T'as un mode facile dans lequel les esquives sont moins automatiques. Je sais pas si.
Enfin, je crois qu'en fait, c'est un mode où les esquives sont automatiques et l'autre où t'as pas d'esquive automatique.
Ouais, d'accord. Ça va être ça.
Il y a un truc, voilà, t'as un mode facile, t'as un mode normal, et donc le mode difficile, faut le débloquer en finissant le mode normal.
Et après, t'as le mode infinite climax, où là, t'as pas le droit à l'envoûtement.
Donc tu peux pas faire de...
Voilà, je crois que les ennemis sont différents dans le mode difficile. T'as des ennemis forts beaucoup plus tôt dans le jeu.
Oui, voilà, en fait, dans le mode infinite climax et dans le mode difficile, la hiérarchie des anges que tu as au cours du jeu... Elle est décalée d'un cran, c'est-à-dire que là où tu avais des angelots de base, tu as les angelots un petit peu supérieurs, et ainsi de suite. Mmh. Donc ouais, ça démarre plus fort, on va dire.
Ok.
C'est ça, vous.
Ça mérite sa réputation de jeu hardcore bien comme il faut, quoi.
Bah, oui, et puis si tu veux faire du platine sur, c'est vraiment hardcore. Hein.
Du coup, pour un petit peu situer le jeu, vu que c'est une exclu Wii U par rapport à tous les jeux Wii U, est-ce que c'est dans votre top 3, dans votre...
Moi, c'est le premier.
Comment vous situez? Ah, carrément.
Ouais, mais Franck, c'est un enthousiaste. Dans 2 mois, c'est celui de double.
Non.
Le bâtard.
Non. J'ai toujours été un fan de Bayonetta. Donc, non, pour moi, c'est vraiment, pour l'instant, c'est le jeu, moi, qui me ferait acheter une Wii U si j'en avais pas une, quoi.
Moi, c'était prévu que j'achète une Wii U pour ce jeu. Donc, voilà. C'est un peu le problème. Mais Donkey Kong, j'ai beaucoup d'appréciation pour Donkey Kong. Donc, c'est qui pour les deux, tu vois.
Les jeux sont tellement différents sur Wii U. Tu vois, tu peux pas comparer Mario Kart, Donkey Kong et puis Bayonetta. Ouais, c'est vraiment.
Antix, t'as acheté la Wii U pour Bayonetta 2 alors
Ça faisait partie des jeux que je voulais sur la Wii U.
Donc, enfin, c'est un jeu.
Quand j'ai vu qu'il y avait annoncé, je reste. Bah, pour moi, c'était quand je l'ai vu annoncer en 2012, c'était bon. Un jour, j'aurai cette console.
Ouais, mais même s'il n'avait pas été annoncé, t'aurais quand même chopé la console.
Oui, mais ça aide un peu, tu vois.
Ouais, forcément.
Bah, très franchement.
Il se trouve que l'autre jeu que je voulais sort à peu près en même temps, donc.
Smash Bros.
Tiens, quelle surprise.
Ouais, franchement, maintenant, et en 2014, le gars qui a pas de Xbox One, PS4 ou de Wii U, qui est sur la génération d'avant. S'il veut se payer une bonne console, pour moi, c'est la Wii U qui propose le plus de trucs différents, quoi.
Bah, c'est la seule qui propose des trucs, déjà. Oui, parce que les autres, elles proposent
rien. Y a pas Call of.
Y a pas Call of, y a pas FIFA.
Voilà, y a pas FIFA, c'est Creed.
C'est ça le truc, quoi.
C'est Creed.
Creed.
C'est Creed.
il n'y a pas ce genre de jeu, mais ça, c'est des trucs que tu peux choper sur PC à 10 balles pendant les soldes de Steam. Faut pas être con après aussi.
Mais ouais, mais d'ailleurs,
c'est encore un autre débat.
Pour revenir à Bayonetta, mais le fait qu'il soit sorti sur Wii U, enfin, t'as remarqué la même chose que moi, Frosty, sur le forum de Nintendo Man, mais t'as des gens qui, à mon avis, seraient jamais intéressés à la série.
Mais oui, mais oui.
Qui ont joué, mais en fait, il est bien le jeu. Putain, moi, ça fait 4 ans qu'on vous le dit.
Ça m'a saoulé, moi, c'est avec le nombre d'actu que j'ai fait sur ce jeu-là, genre, oui, c'est de la merde, Bayonetta, elle a une tête de con, machin, mais putain, mais Jizou avant, enfin, voilà,
non, mais, faut y attends, jouer avant. En plus, Bayonetta 1 sur 360 et PS3, il y avait déjà une démo. Donc, essaye la démo. Moi, j'essaie la démo, j'ai compris que le jeu allait tuer, quoi.
Bah oui, il faut faire.
Pour le 2, c'est pareil, j'essaie la démo, j'ai compris que le jeu allait tuer.
La démo, j'ai fait 6 ou 7 fois celle du 2.
Ouais, voilà,
j'en pouvais plus y attendre.
Moi, j'ai épuisé les 15 utilisations de la démo.
Est-ce que t'as eu ton pur platine?
Non, j'ai pas eu mon pur platine. Par contre, j'ai réussi à faire du platine à peu près tout le long, donc c'était pas si mal que ça. Pour un truc que j'ai joué 15 fois, c'était pas si mal que ça. Mais pour 15 essais, je trouvais que c'était pas si mal que ça.
Pour moi, je trouve que les jeux Platinum Games, si t'aimes bien le jeu vidéo un peu hardcore, un peu arcade, tu peux les acheter les yeux fermés. Quoi.
En termes de...
La sauf, plupart.
Sauf Anarchy Reign. Voilà.
Sauf Anarchy Reign. Et Legend of Korra.
Ouais.
Et Metal Gear, machin, tout.
Allez, Metal Gear Rising est moins bien.
Même Legend of je sais pas quoi, là, j'ai pas joué. Voilà, ça reste pas mal, ça reste une commande quand on voit quand même c'est Activision qui fait une commande à Platinum Games, genre est-ce que faire un petit jeu vite fait machin.
Voilà,
vous voulez pas remplir nos caisses ? Oui, on voudrait pas remplir nos caisses.
Ils ont fait un petit jeu sur commande avec une équipe super réduite. À côté, ils font quand même Bayonetta 1 et Bayonetta 2 parce qu'ils ont fait les deux, plus le truc, la commande pour sur Xbox One. Mine de rien, ils ont quand même sorti un très très bon jeu.
Je crois que Bayonetta 1, le portage a été sous-traité.
Oui, il a été sous-traité.
Non,
partiellement par une autre.
Non.
Si.
Ils sous-traitent pas.
C'était marqué à la fin du générique qu'il l'avait sous-traité.
Ah oui, c'est à la fin du générique, c'est écrit que ça a été sous-traité.
Bon, ok.
Portage version Wii U, t'avais le nom des boîtes qui l'ont sous-traité.
D'accord.
Après, ça n'empêche pas peut-être que les mecs de Platinum ont un petit peu supervisé le truc pour être certain que ça partait.
La remarque de fraude
du costume.
Mais le fait que le portage a été bien fait, contrairement à la version PS3, qui n'avait pas été portée sur PS3 par Platinum,
et qui était
réputé pour être complètement à chier par rapport à la version 360.
Ouais.
Oui, c'était Sega qui l'avait porté.
Bon.
Après, avec les prix. Donc, en fait,
non, c'était la Sonic Team, très exactement, qui l'avait. Pardon. Ceci était de la mauvaise foi. On va clore le chapitre Bayonetta parce que ça fait quand même un bon moment qu'on en parle.
Tu veux que je fasse une petite conclusion ?
Alors, je t'en prie, si tu as une petite conclusion que tu avais déjà préparée, vas-y, alors, ça me ferait très plaisir de l'entendre.
Dans le Dojo Bar, sur le retour de l'O3, j'avais dit au pire, Bayonetta 2, ce sera aussi bien que l'or. Le fait est que Platinum a donné tort et qu'en fait, Bayonetta 2, c'est quand même vachement mieux que l'or.
Voilà, c'est une très bonne conclusion. Moi, je dirais pareil, si vous pouvez choper les deux,
faites-le. Sinon, chopez le 2.
En plus,
c'est pas cher.
Franchement, voilà, ça coûte
53€ pour les deux.
Ouais, 53€ pour les deux, c'est vraiment donné pour un jeu de cette qualité-là. Même si le beat'em all, c'est pas forcément trop votre truc, franchement, c'est un gameplay qui est super addictif. À la limite, si le beat'em all, c'est pas trop votre truc, chers auditeurs, je vous conseille plutôt de commencer par le 2.
Il y a une démo, de toute façon.
Et dans le pire des cas, il y a une démo pour essayer qui est gratuite et qu'on peut utiliser 15 fois. Je pense que c'est comme Wonderful 101, faut la faire 2-3 fois pour être sûr de bien tout comprendre. Et en général, une fois qu'on a fait 2-3 fois, on a vraiment envie de faire la suite.
On comprend.
C'est vraiment un jeu très motivant.
C'est vraiment des putains de bonnes mécaniques, de toute façon. Donc,
non, il y a vraiment.
Et puis tu t'amuses à faire des trucs cool.
Et puis
c'est l'importance d'un jeu vidéo, quoi.
Et des fois, tu t'impressionnes toi-même tellement tu fais des trucs de ouf.
Et des fois, t'as l'héroïne qui fait du rodéo sur un centaure. En shootant ses potes à côté.
Non, puis c'est vachement drôle en plus. Enfin, il y a plein de petites scénettes marrantes.
Ouais. Rien qu'en essayant la démo, t'as déjà un aperçu de la folie du jeu. Où pendant la démo, tu te coltines déjà trois boss, je crois, un truc du genre. Tu te retrouves à la verticale sur un immeuble, voilà. Affronter un gigantesque dragon. C'est juste.
C'est un peu what the fuck, quoi.
Ouais, c'est jeu japonais, quoi.
C'est le jeu what the fuck par excellence.
Ça se prend pas au sérieux, c'est juste drôle, c'est de la bonne humeur.
C'est un excellent défouloir.
Quelqu'un qui a joué pour la première fois l'a comparé à Metal Slug, qui Du coup, je pense que c'est une bonne comparaison.
Ouais, mais c'est un peu ça, ouais. C'est un peu le jeu.
Sauf que contrairement à Metal Slug, les boss sont cool dans Bayonetta.
Et sinon, on fait la pause musicale ou bien?
Ouais, allez, on va la faire. Alors, justement, on va écouter un morceau de l'OST de Bayonetta 2, puisqu'on a écouté un morceau de l'OST de Bayonetta 1. Non, ça suffit. On arrête
de chanter. Là, c'est Tomorrow Is Mine.
Là, c'est Tomorrow Is Mine, qui est une chanson absolument extraordinaire. Enfin, c'est le truc que tu peux écouter en boucle quasiment. Que tu écoutes en boucle dans le jeu, mais que tu t'en lasses pas. C'est super rythmé, donc c'est toujours une musique de combat. Ça vous donne un petit peu une idée du décalage qu'il peut y avoir entre le combat super violent et de la musique super enjouée, limite J-pop.
Sachant que le reste du temps, t'as quand même le droit de la musique d'église. Hein.
C'est un peu particulier.
C'est de l'orgue avec des chœurs derrière pour la majorité des boss. Hein. Mais t'as ça au milieu.
Ouais, t'as de la J-pop, ça. Mais en même temps, ça donne bien.
J-pop d'église.
T'as de la J-pop d'église, ouais.
Pour les ennemis de base, t'as de la J-pop et après, t'as de la musique d'église.
Mieux, ouais. Voilà, la J-pop rend mieux que toutes les autres musiques d'ambiance réunies. Hein.
C'est ça.
Bon, allez, on s'écoute ça et puis on va parler très rapidement des amiibo juste derrière. À tout de suite. De retour et j'ai foiré ma transition, c'est pas grave.
Sion.
Voilà de retour. Voilà. Donc je remettrai la bobine ici. Voilà, je mets les petites notes comme ça dans le. Voilà. Faut rembobiner la cassette, mémé. Donc on va parler assez rapidement des amiibo. Ça, j'ai l'impression que Bayonetta, on pourrait en discuter toute la nuit ou quasiment. Même pendant les pauses musicales, on continue. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas dit. Finalement,
pas été dit pour éviter le spoil aussi.
Voilà, il y a aussi un petit peu de spoil, donc voilà. Donc on va parler des amiibo, puisque
amiboches. Donc sans A majuscule, amiibo.
Alors que d'ailleurs les amiibo qui sont les dix les dernières fois.
Voilà, alors voilà pour refaire le petit historique, la dernière émission en fait hors antenne après l'émission, on a commencé à beaucoup discuter d'amiibo et je me suis dit c'est un peu dommage de pas vous en faire profiter. Surtout que il y a des notamment Francis qui avait des choses très intéressantes à dire, qui les a un petit peu dit la dernière fois en antenne, et j'aimerais bien que voilà on reprenne un petit peu là-dessus.
J'aurais dû me réécouter parce que je me souviens plus.
C'était
hors antenne, mais ne t'inquiète pas, je vais te rafraîchir la mémoire parce que moi je l'ai réécouté.
Une fois, je dis pas des conneries.
Et ouais. D'abord, voilà, on a appris récemment que les amiibo qualité production allaient être tout petit peu plus moche que ce qu'on avait vu lors des expositions.
Bon, ce qui n'est pas surprenant parce que les prototypes sont toujours plus beaux que les versions finales, mais bon.
Alors je sais pas si c'est le cas pour toutes les figurines, je suis pas un grand collectionneur de figurines.
Moi non plus, mais ça me paraît logique qu'au final, tu te rends compte que c'est trop cher, donc tu. Tout à fait, c'est un peu trop détaillé, trop cher, et t'es obligé de réduire les coûts pour.
Elles se sont skylandarisées, comme on dit.
Ouais, c'est ça.
Ça y est, commence à insulter tout le monde.
On fait la remarque qu'elles étaient plus épaisses, justement, pour que les gamins puissent les amener dans leur carte.
D'ailleurs, on remarquera que Sega va être beaucoup plus honnête avec ses figurines Sonic Boom, vu qu'elles seront directement achetées.
Elles seront directement moches.
À ce sujet, j'ai quand même une question à vous poser. Du coup, en fait, ce dont on a parlé la dernière fois, c'est surtout à quel public c'était destiné. Donc, c'est vrai que y a un truc intéressant, c'est de se dire effectivement qui peut bien acheter ça. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont vraiment le vendre ou est-ce que finalement ça va être un truc éphémère et dans 6 mois ils n'en parlent plus, il n'y aura pas de nouvelle gamme parce qu'en réalité ça a fait un four. C'était surtout de ça que je voulais parler parce que je trouvais que la réflexion était intéressante, mais néanmoins vous amenez le sujet sur un terrain intéressant, c'est est-ce qu'il pourra y avoir des compatibles amiibo entre guillemets qui seraient faits par des Activision, des Tecmo, éventuellement je sais pas de d'autres compagnies. Est-ce que vous pensez par exemple que Sega pourrait dire les figurines Sonic Boom elles sont compatibles NFC donc vous pouvez les utiliser dans Sonic Boom comme si quelqu'un allait acheter le jeu?
À mon avis ça va être plus du Nintendo à la base pour faire vendre des jeux Nintendo, parce que Nintendo a besoin de fric, enfin besoin, À mon avis, ils vont d'abord mettre leur... Non, mais ils vont mettre leur licence vraiment en avant. Ils vont pas mettre Sonic ou machin, quoi.
Non, mais c'est déjà le cas, parce que t'as déjà du Zelda, après, du Mario, pas. Du Kirby, voilà. Mais...
Après, qu'est-ce qui empêcherait Nintendo de donner une partie... C'est du NFC, c'est une technologie qui est pas propriétaire, a priori.
Qui est ouverte, oui.
Ouais, donc qu'est-ce qui empêcherait Sega de mettre des figurines Sonic Boom qui sont en plus des jeux exclusifs aux consoles Nintendo?
Leur talent.
Donc il y aurait... Oui, ça, oui.
Des jeux de qualité.
Ils n'auront pas le problème d'avoir les, pour Sonic Boom.
Avec des graphismes de qualité.
Je vais jamais y arriver. Je vous déteste.
Et un gameplay de qualité.
De qualité.
Et des commentaires de qualité. J'attends les retours de qualité de Mortal, personnellement.
T'inquiète. Ça va le faire. Ça va bien se passer.
De qualité. Mortal, il va dire que la figurine, elle gratte le cul et que le chat l'a bouffé.
La figurine est plus belle que le jeu. Oh putain.
Bon, on va pas être très loin du résultat, je pense.
Oui, ça doit être sûrement. Quoi que le jeu est quand même ultra moche. Hein.
Mais bon, bref, pour les
amis, nous, ouais, c'est... Bon, en fait, je vois pas ce qu'empêcherait Sega, par exemple, de les faire NFC sur Sonic Boom, vu que de toute façon, le jeu est exclusif Wii U, donc ils n'auront pas ce souci de se dire « comment on va faire sur Xbox One ou PS4 ?»
Non, mais tu pourrais très bien imaginer que, je sais pas, les mecs qui font Xenoblade Chronicles, tu vas me dire, c'est peut-être Nintendo qui édite.
C'est Nintendo qui édite.
Ouais, c'est Nintendo.
Donc ils auraient pu. Non, mais tu pourrais imaginer que les mecs fassent, pour la, je sais pas, 3 mois après la sortie du jeu, la figurine NFC qui marche sur New 3DS et puis qui marcherait sur Wii U sur la prochaine version, machin. Mais pour l'instant, ça n'a pas été annoncé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un éditeur tiers qui s'est dit intéressé par la techno.
Mais il y a un éditeur tiers sur Wii U, je te rappelle.
Il y a que Sega, ils font que de la merde.
Ça règle la question.
Non, il y a Sega qui fait des jeux de qualité.
De qualité. Mais ouais, ça pourrait. Hein. Il pourrait aussi y avoir une figurine Bayonetta fait par Platinum Games pour, je sais pas, moi.
Ouais, il faudrait qu'elle soit à poil pour que ce soit intéressant. Enfin,
qu'elle soit à poil. Mais une invocation histoire de justifier le fait qu'elle soit à poil quand même.
Voilà.
Franchement.
Non, mais il pourrait y avoir de tout un tas de choses. Mais ouais, je vois mal. Je vois mal un... Ou alors ce serait Nintendo qui les fabriquerait, et du coup ça reviendrait quand même à la charge de Nintendo. Enfin, ça reste encore un marché un peu bizarre quand même.
Parce que du coup, pour quel public... on va revenir quand même à la question essentielle. Le marché auquel c'est destiné, pour vous, c'est l'otac de 30 ans qui va aller acheter ce genre de choses-là? C'est les gamins dans les cours de récré? C'est... Déjà, c'est les gens qui ont une Wii U pour l'instant, parce que c'est vrai que la New 3DS, c'est dans quelques mois, certes, mais c'est pas encore tout de suite. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un potentiel en tant que figurine et derrière en tant qu'accessoire de jeu? Parce que ça fait théoriquement les deux.
Ouais, en tant que figurine, pour moi, c'est plus pour l'instant, les gros fans de Nintendo. Donc, qui
les Nintendo sexuels.
Voilà, les N-sex, quoi, qui suivent vraiment l'actualité, qui savent déjà que ça sort, déjà, de base.
Parce que ils n'ont pas le détail, mais
en fait, si t'as pas regardé le Smash Bros Direct, bon bah tu sais déjà pas qu'il y en a une dans la, qui est la figurine Mario dans le pack. Là, on va avoir un Nintendo Direct demain soir. Pour moi, si Nintendo fait pas de com là-dessus, c'est foireux, quoi. C'est-à-dire que eux-mêmes ils y croient pas, quoi. Et le plus gros souci aussi, c'est que pour moi. Quand ça avait été annoncé, ils avaient dit « Ouais, vos figurines seront compatibles avec plusieurs jeux. » Donc on s'est tous mis dans le crâne « Putain, ouais, c'est cool, je vais acheter ma figurine Samus, je vais la mettre dans Mario Kart, je vais la mettre dans Smash Bros, dans plein d'autres jeux. » Et au final, on se rend compte que, par exemple, dans Mario Kart, il n'y a que la figurine qui est compatible avec le jeu.
Alors attention, grosse info, aujourd'hui même, il y a une page... Il y a une page sur le site de Mario Kart 8 qui a été mise en ligne, qui indiquait la compatibilité Amiibo pour le 13 novembre, c'est-à-dire jeudi prochain, pour environ 8-9 personnages.
Ouais, mais apparemment...
Donc, ça fera quoi?
Mais en fait, moi, de ce que j'ai lu, c'est dans Mario Kart, par exemple, ça te mettra un costume à la con pour ton Mii. Si tu joues avec ton Mii.
Moi, je
ne joue pas avec mon Mii.
Ouais, vu que je joue avec Bowser, j'en ai rien à branler, quoi, en fait.
En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas de précision sur l'utilité des.
Ouais.
Mais je ne sais pas. Est-ce qu'on n'a pas de précision sur l'utilité de l'Amiibo parce qu'il sert officiellement à rien, c'est-à-dire que même Nintendo a aucune idée de ce qu'il va en faire, ou est-ce qu'on n'a pas de précision parce que finalement il nous garde la surprise et qu'il y a un petit quelque chose derrière qui va finir par se déclencher.
En fait, on sait bien qu'il va y avoir qu'il y a des trucs liés à tes données de sauvegarde, par exemple pour Smash Bros, la configuration de ton personnage qui pourra être dedans. Alors, si tu prends Mario, ton amiibo Mario, que tu as customisé ton Mario avec tel ou tel coup, ben, ce sera dedans. Mais après, on ne sait pas du tout si ça va aller au-delà. Et surtout...
C'est une clé USB, quoi.
Ouais. C'est, en fait, c'est une clé USB.
Mais en plus,
ma théorie, elle est toute simple. C'est, les mecs, ils auraient pu faire un service de cloud. Comme ça, quand tu vas chez tes potes, tu récupères ton identifiant. Hop, t'as ton Mario personnalisé. On se dit, ouais, mais le cloud, ça coûte. Il faudrait un truc qui rapporte. Ils ont fait des figurines et voilà.
Bah oui.
C'est vraiment une théorie de gros connard.
Ouais. La théorie du complot.
Je savais que ça te ferait plaisir.
Et ben, ça me fait très plaisir d'entendre des théories de gros connards comme ça, parce que le pire, c'est que c'est vrai, très probablement.
Il y a une partie qui est vraie. Et puis surtout, Nintendo, je pense qu'ils ont vu les résultats financiers d'Activision pour Skylanders et de Disney pour Disney Infinity, et ils se sont dit, putain, ils se sont fait 1 milliard chacun, juste avec des figurines qui à la base Activision par exemple, Skylanders, ils ont lancé le truc. Skylanders, c'était pas connu, c'était une nouvelle licence. Là, tu sors un Pikachu machin, tout le monde veut son petit Pikachu, tout le monde veut son Link. C'est clairement pour les gros fans pour l'instant, puisqu'on sait même pas à quoi ça va servir.
Mais alors là, juste Fraud, tu avais totalement raison. Pour Mario Kart, ça va être en fait des costumes pour quand tu prends ton Mii.
Ouais, c'est
ça. Il y aura les costumes de Mario, Luigi, Yoshi, Peach, Donkey Kong, Link, Kirby, Captain Falcon, Samus et Fox McCloud.
Voilà. Mais voilà.
Ça sert à rien.
Sur Mario Kart, ça ne sert à rien. Encore si ça pouvait débloquer des nouveaux niveaux, je sais pas, genre ils font une mise à jour. Ton truc il est bloqué, soit t'achètes le DLC, soit t'achètes ta figurine, machin, ça te débloque le truc. Pourquoi pas, ça fait un...
Enfin, même là, c'est intéressant.
À l'achat d'une figurine, si. On t'offre un DLC, c'est ça que tu veux dire.
T'achètes ta figurine, tu fais le contact et après, elle ne sert à rien, quoi.
Justement, c'est ça qui est intéressant.
Autant acheter le DLC en ligne, quoi.
Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ta figurine, tu peux la revendre. C'est ça le truc en fait.
Oui, je vous rappelle que les DLC, vous ne les achetez pas. Voilà. La caractéristique de quelque chose que vous avez acheté, c'est votre capacité à le revendre. Si tu ne peux pas revendre quelque chose, tu ne l'as pas acheté.
Voilà, les DLC,
tu l'as loué à durée indéterminée.
C'est de la location. Hein. Et une figurine, c'est un achat réel. Les Skylanders, par exemple, même dans Disney Infinity, par exemple, tu as un pack de base. Après, t'as d'autres aventures avec d'autres figurines, et sinon, ouais, t'as des petites figurines. Pour moi, c'est des DLC. Si t'as plus envie de jouer avec ta figurine Iron Man, bah tu peux la revendre. C'est pas grave en fait. Et l'intérêt pour ce genre de truc, c'est aussi si ça débloquait des niveaux ou pas comme un DLC en fait. Ça débloquerait un instant T. Genre t'allumes ta console, tu mets ta figurine, tac, ça le débloque, t'enlèves ta figurine, t'éteins ta console, c'est rebloqué. Là, ça peut être intéressant, en fait. Parce que après il y aurait tout un petit marché, un marché annexe.
Tu peux aussi
venir chez ton pote avec ta figurine Metroid. Enfin,
du coup, il aurait accès au circuit Metroid le temps que t'es chez lui, et puis dès que tu repars, il n'y a plus, quoi.
Il n'y a plus, donc du coup, putain, le connard, il était trop bien le circuit, je vais acheter la figurine, bam, c'est bon.
Ouais, mais c'est pas comme ça que ça va se passer, on le sait tous.
Non,
pas prévu, il y a très peu de chances que ça serve à ça.
Pour moi, en Day One, il va y avoir tous les gros fans et les otaks qui vont acheter les figurines parce qu'elles sont jolies, parce que c'est un peu geek, parce que voilà, ça va traîner sur ton étagère. Après, on verra s'il y a beaucoup de jeux différents, s'il faut un Mario Party 10 intéressant. C'est encore une supposition, parce que Mario Party, je vais trouver trop intéressant depuis un moment. Et s'il faut un Mario Party 10 très intéressant avec des nouveaux personnages qui arrivent un peu à la Skylanders ou à la Disney Infinity, que tu peux pas avoir dans le jeu sans ta figurine, là ça peut être pas mal, mais sinon on voit pas l'intérêt. Si c'est pour nous mettre un t-shirt Mario pour jouer avec ton Mii, est-ce que ça vaut 13€? Non, je pense pas.
Oui, parce clairement, qu'en plus c'est pas donné. Mais du coup, est-ce que... en grosso modo, on sait au moins le public de départ à qui ça va être destiné. Il n'y a pas de souci.
Les gamins, ils vont kiffer aussi. Hein.
Ils vont aimer les enfants.
Même s'ils ne comprennent pas le NFC, tout ça, ils vont en rayon, ils vont voir des figurines Mario, Kirby, machin. Ils vont...
Maintenant, moi, j'ai des gamins, je ne vais plus pouvoir mettre les figurines dans un magasin de jeux vidéo pendant 3 semaines.
Ils vont voir des figurines Sonic, ils vont faire.
Ils vont se suicider après.
Les gens, tu leur dis NFC, ils ne comprennent pas, tu leur dis paiement sans contact, là, ils voient ce que c'est.
Non, tu leur dis paiement sans contact, ils font ouais, j'en veux pas.
Ouais, non, mais ouais, aussi ça aussi. Mais le NFC, c'est vieux maintenant, c'est quand même assez vieux.
On l'utilise tous avec nos cartes Navigo dans Paris. Hein.
Oui, c'est super vieux comme truc, personne ne sait ce que c'est. Du moment que ça marche, c'est l'important. Après, les gens, ils sont pas obligés de savoir comment est-ce que ça marche techniquement. Mais pour les enfants, ça va être plutôt pas mal. Mais il faut un jeu fédérateur, hein. Il faut un Skylanders, ou il faut un Disney Infinity, mais à la sauce Mario, quoi.
Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu crois que Nintendo, voilà, à long terme, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Nintendo va sortir son Disney Infinity à lui?
Un Nintendo Land?
Une espèce Nintendo de Nintendo Land 2, ouais, un truc
Nintendo
comme ça.
Land 2,
ou Nintendo World, ou je sais pas,
voilà,
quoi.
Et tu débloques des, comme dans un parc d'attractions, tu débloques tes trucs en fonction de comment dire, de ce que t'as acheté.
Même pas forcément débloquer des niveaux, mais tu peux jouer avec les personnages.
Ouais, tu peux jouer avec les persos, c'est temporaire en fait. Hein,
sur un truc à la Pokémon, franchement, ils peuvent y aller, c'est une licence qui est ok pour ça, quoi.
Je crois qu'il n'avait pas tenté avec un Pokémon Rumble ou quelque chose comme ça.
Pokémon Rumble,
ouais,
sur
avec des versions toutes moches.
Ouais, sur l'eShop, ouais. Bah, ça n'a pas marché parce que c'est sorti qu'au Japon et puis c'était un jeu eShop, c'était pas un vrai Pokémon.
C'était un jeu en démat, quoi.
Et puis elles étaient moches, les figurines. C'était du. On aurait dit des origami, un peu.
Donc, fondamentalement, autant sur une licence comme Pokémon, ça peut fonctionner. Autant, par exemple, ils ont dit que l'ami Bodling qui serait compatible avec Hyrule Warriors.
Voilà, là par contre, tu vois, ça va servir, quoi.
Voilà, il y a des licences sur lesquelles c'est peut-être dangereux de toucher, de venir introduire des trucs tiers dont les fans traditionnels des séries ont peut-être pas nécessairement envie, quoi. Ouais, je me vois mal devoir acheter une figurine pour profiter d'un truc dans un Zelda ou un Metroid alors que j'ai pas envie de figurine. Ça va me faire du mal.
Ouais, mais non. Après, ce serait pas comme les DLC actuels où le jeu il est pas terminé, on te vend déjà un season pass. Enfin, il est pas sorti, on te vend déjà un season pass pour dire attention, on n'a pas encore sorti le jeu, en plus il est pas terminé quand il va être sorti, donc on te vend déjà des DLC qui sont pas encore sortis. Je pense pas, ils ont pas cette idée là. Ils ont plutôt l'idée de on va sortir un jeu et on va te rajouter des trucs si t'en as envie. Tu pourras par exemple, je sais pas moi, dans
c'est la prolongation de la durée
ouais,
de
mais
vie,
c'est,
quoi,
c'est
Hyrule
même
Warriors,
même du DLC.
Dans Hyrule Warriors, ils auraient très bien pu.
Pourrait être le principe du DLC.
Ouais, ils auraient très bien pu foutre la figurine de Ike, qui est dans. Ou Ike, ça dépend comment vous le prononcez, de Fire Emblem, le mettre dans le jeu et pouvoir jouer avec ce personnage-là, vu que de toute façon, ça reste un peu un truc médiéval avec une épée et puis ça marche, quoi.
Je l'aurais acheté s'ils avaient fait ça.
Exactement. Alors que là ils mettent Link. À quoi ça va servir, quoi? Personne n'a l'idée, en fait, de à quoi ça va servir. C'est ça le problème de leur figurine pour l'instant.
Tu vas pouvoir débloquer le Link dans Hyrule Warriors, comme ça?
Ouais, c'est le... Quand ils ont annoncé ça, mais personne, mais du coup, ouais, soit sur Twitter ou autre.
À titre personnel, si dans Sonic Boom, quand tu mets ta figurine, ça éteint le jeu, je pense que ce sera une belle fonctionnalité.
si tu mets ta figurine Mario, ça devient un bon jeu de plateforme.
Ah merde. Ah non.
Ah oui,
non.
Ça te lance Mario. En fait.
Ah non, mais ça te lance Mario Galaxy.
Voilà, à la place de Sonic. À la place de Sonic, t'as Mario et tout d'un coup, ça devient un bon jeu. Il y a peut-être un truc à creuser.
Oh, mais
c'est précis. Ouais, voilà. Oh, des textures pas baveuses.
N'oubliez pas qu'il y a déjà eu un DLC Zelda dans Sonic Lost World.
Oui, il y a eu un DLC Yoshi.
Alors, je rappelle que...
Tu les as pas testés d'ailleurs, Mortal, je suis déçu.
Ben, c'est-à-dire que, globalement, je vous rappelle que Sonic Lost World, basiquement, la galette, elle me sert de calmeuble depuis... Enfin, j'ai dû jouer 2 heures, ça m'a cassé les couilles.
Ah, on l'a pas refilé à un auditeur depuis ?
Non, on l'a pas refilé à un auditeur parce qu'on n'est pas des connards.
Je croyais.
C'est moche, après.
On va
c'est
le
moche.
Faire.
Pourtant, on a fait beaucoup de coups bas ce soir.
Non, mais sérieusement, hein, moi, le prochain... Alors, nous ferons un jeu, je peux l'annoncer tout de suite à nos auditeurs, il y aura un jeu, il y aura des trucs à gagner pour l'émission d'avant Noël. Voilà, je peux le dire tout de suite.
Cette classe.
Il va y avoir un jeu, il va y avoir des trucs à gagner. Si je suis vraiment un gros connard, dans le lot, il y aura un Sonic Boom. Attention.
Le cadeau caché.
Voilà, et en plus, ce sera genre le deuxième qui gagnera ça, donc l'objectif, ce sera de pas finir deuxième, tu vois.
Ce sera pas finir premier ou troisième.
Ça, c'est... Non, mais moi, je le fais, je m'en fous, je suis un déglingo, moi.
Non, le mieux, c'est Sonic and the Black Knight.
Arrête, parce que sinon, je ressors Sonic 2006 sur Xbox 360 et j'offre un exemplaire. Je déconne pas. Je suis capable de le faire.
Lui, maintenant, le jeu, il est drôle, en fait. Enfin, les gens, ils jouent parce que, justement, il est réputé pour être un chien.
Il sera peut-être bien avec des amiibo, voilà. On mettra nos amiibo, bisous.
On mettra nos amiibo, ouais, une version HD de Mario Galaxy.
Version HD de Mario Galaxy.
Oh,
donc, en tout cas, voilà. En dehors de ça, voilà, on va avoir à la sortie des Mario, des Luigi, des choses comme ça. Est-ce que vous pensez que il va y avoir d'autres choses qui vont sortir? Par exemple, c'est un truc con, mais est-ce que, je sais pas, la figurine de Luigi, je sais pas si elle était prévue, je crois que l'avoir. Est-ce que tu penses que tu pourras avoir un accessoire, genre pour 3-4 euros, t'auras l'Ectoblast 1 que tu pourras fixer dessus ou des conneries comme ça? Est-ce qu'on pourra avoir le parapluie de Peach
Comment ça? Fixer sur la figurine?
D'autres accessoires.
Non,
déjà qu'on n'aura pas la culotte de Peach.
Ils vont carrément faire plusieurs figurines.
Il y aura plusieurs figurines.
Vu qu'ils ont déjà annoncé qu'ils feraient pour chaque jeu, il y aurait un set de figurines, tout ça, machin, même si les figurines sont compatibles avec plusieurs jeux. Faut pas se fouler, hein, ils vont y aller sur. Ils vont refourguer de l'amiibo à 15 boules, ils vont vouloir les refourguer par dizaines.
Hein. Alors pareil, d'ailleurs, il y a eu les enseignes Walmart, donc les Leclerc chez les Ricains, qui commencent à faire des pubs pour les amiibo. Et dans leur magasin, donc il y a un écran avec le amiibo Mario, il est compatible avec tel jeu. Il y a des artworks et on voit qu'il y a Tom Nook de Ping, il y a Bowser, il y a les Pikmin, il y a d'autres figurines en fait. Donc probablement déjà il y a probablement déjà d'autres figurines qui vont être compatibles. Alors, donc il y aura forcément encore d'autres trucs en compatibilité, d'autres jeux, d'autres machins. Mais non, on en reste sur le même problème, quoi. On ne sait pas à quoi ça va servir. Donc,
on en arrive à la question ultime, justement, puisque là, vous êtes, je vous sens tous chaud patate. Est-ce que vous allez en acheter? Et si oui, lesquels? Méduse commence, parce que voilà.
Bah, écoute,
Méduse, c'est le plus intéressant.
Comme ça, tu vas te parler, tout le monde peut se casser, c'est ça?
Mais Méduse, attends les mots.
Méduse, faut qu'il aille faire dodo.
C'est la parole du sage.
Je ne prévois d'acheter aucun amiibo, mais, cela dit, s'il y en a un ou l'autre qui est bien fait, le Yoshi qui avait été présenté à la base, je le trouvais super bien fait, la dernière version, là, qu'ils vont commercialiser, hors prototype, bof. Mais s'il y a un truc vraiment bien fait, je n'exclus pas de prendre un petit amiibo Pikmin ou un Yoshi ou un. Ou un Toon Link pour foutre sur une étagère. Mais
ce serait que pour les figurines, quoi.
Bah, écoute,
ce serait vraiment que pour la figurine.
Ouais, parce que je vois pas, j'ai pas envie de. Enfin, ouais, à la rigueur, si ça apporte en plus quelque chose dans un jeu, tant mieux, mais je vois pas trop. En tout cas, c'est pas pour une fonctionnalité en jeu qu'ils vont me faire hacker pour un amiibo, c'est certain.
D'accord. Ah, ça dépend ce que c'est. Si,
voilà, Fro, tu prévois d'en acheter. Enfin, ça dépend ce que c'est, oui, effectivement.
Mais... Ça dépend vraiment ce que c'est, si c'est vraiment un gros truc. Mais après, vu que les amiibo sont. C'est pas donné, quoi. C'est quand même 10-15 balles, entre 10 et 15 euros la figurine.
Ouais, voilà. J'espère que tu vas nous surprendre sur
suivant les
marques. Mais a priori, ouais,
j'ai un gros doute. Moi, il me faudrait. Pour vraiment que j'en achète beaucoup, il faudrait vraiment un jeu fédérateur. Il faudrait un Nintendo World ou un Nintendo.
Toi, un Nintendo World façon Disney Infinity, tu serais client, quoi.
Ouais, je serais assez client, ouais.
Mais si, en l'absence, c'est-à-dire pour l'instant, le jour de la sortie, tu vas en acheter un ou pour le plaisir de la figurine éventuellement?
En l'absence,
ou
voilà.
Rien.
Je me connais très bien, j'ai plein de passions et dans toutes mes passions, je craque un fric fou. Donc je le sais très bien, je vais acheter, j'achèterai une petite figurine Link, un Pit, 4-5, on va dire. Parce que j'aime bien les figurines. Et encore, ça dépend comment elles sont faites. Et j'achèterai très certainement la Luigi pour mon neveu, parce qu'il est fan de Luigi. Voilà, c'est tout. Mais après, pour qu'il puisse poser ça dans sa chambre. Mais de là à acheter vraiment un jeu en particulier, et les figurines aussi, parce que... machin, faut que ça envoie du pète. Et pour l'instant, je suis très 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 déçu de Nintendo, qui fait que... Enfin, c'est quand même un fabricant de jouets à la base, hein. Là, ils refont du jouet et ils sont pas foutus de nous faire rêver, quoi. C'est ça le problème.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Antix, tu vas en acheter, tu vas pas en acheter, tu...
Alors moi, elle me tentait bien quand on a vu les prototypes à l'E3. Depuis, j'ai vu les versions commerciales, je suis beaucoup moins tenté.
D'accord, mais t'en, dans l'absolu, là, maintenant, tu t'en achèterais pas du tout ou...
Dans l'absolu, c'est pas prévu. Je voudrais quand même voir un peu la tronche qu'elles ont. Après, moi, ça m'intéresse pour les séries de Nintendo où t'as généralement peu de merchandising, genre une figurine Captain Falcon ou un petit truc de NES, enfin le personnage en NES, ce genre de truc, tu vois, que je trouverais assez cool d'avoir parce que j'aime bien les personnages et généralement ce genre de truc ça n'existe pas, quoi. Donc ce serait plus pour ça. Pour l'instant, comme dit Fro, la fonction ludique,
D'ailleurs,
voilà, quoi, c'est pas trop ça.
D'ailleurs, pour ajouter un truc au niveau des, comme tu dis, les versions commerciales sont un peu différentes des versions qu'on a vues. On les voit très bien sur le site de nintendo.com/amiibo. Vous allez voir que, par exemple, Luigi, s'il est penché en avant, machin, bon, bah, il y a un espèce de truc transparent qui est au niveau de sa bite. C'est pas forcément cool. Il y a pareil.
Bah, c'est pour ça que j'irai voir en magasin avant d'acheter, quoi.
Ouais, Link a une sorte de tige jaune fluorescente, c'est super moche.
Un peu jaune pisse au milieu.
Voilà, là, Fox, il y a pareil, il y a une tige bleue, un peu transparente, qui dénote à mort. Enfin, je ne trouve pas forcément très très belle. En artwork, elles font joli, et après, dès qu'on voit en vrai de vrai. Et encore là, c'est qu'en photo. Je doute qu'en vrai, ce soit aussi net. Donc, à voir, quoi. C'est 13$ hein, quand même aux États-Unis. Hein.
C'est 13... De toute façon, ce sera 13€.
Ce sera 13€ ici.
A priori.
De toute façon, on a le droit d'aller jeter un coup d'œil au packaging à la Fnac. Donc,
oui.
On a eu le truc à faire. Hein.
Avant d'être en expo un peu partout.
Ouais.
Parce que il faudra l'utilité.
Moi, c'est celle de Samus moi, qui m'intéresse. Elle est vraiment jolie. Ouais.
C'est une des celles qui m'avait moins convaincu, moi.
Bah dans les figurines de... Le problème, c'est que dans les figurines de Samus, alors tu vas me dire c'est les figurines qui coûtent plus cher, mais il y a les figurines de chez...
Figure, non ?
Ouais,
je crois que c'est ça.
Ouais,
il y en a une 100% articulée, avec articulation à cliquetis de Samus. Elle est juste magnifique. Ouais, alors effectivement, cool. Elle coûte 50-60€, mais là, t'as de la figurine de très haute qualité. C'est pas...
Ah, ça.
Elle fait pas de NFC, bon, c'est un peu triste, mais... Mais je pense que si tu arraches le socle de la figurine,
c'est ce que j'allais dire.
Et tu la colles dessous, il y a peut-être moyen que ça fasse du NFC. Hein.
c'est ce que j'allais dire. T'as juste
en fait, c'est ça qui est NFC. Hein,
t'as juste à ouvrir le truc et puis à foutre la puce NFC à l'intérieur. Hein. C'est pas.
Ben voilà la bonne solution. Acheter des vraies figurines et coller des puces NFC dedans.
Et voilà.
Ça... Voilà. On a résolu le problème pour tout le monde.
Elles seront peut-être un peu lourdes pour le gamepad.
Oui, mais bon, tu les laisses pas coller dessus de toute façon. Tu les poses et puis tu les vires.
Oui, parce que sinon, pour jouer, ce serait pas pratique. Voilà, si t'es obligé de les poser sur la table pour prendre le gamepad et qu'ils se tombent, après, c'est
un petit peu chiant.
J'aimerais quand même bien qu'ils fassent une figurine Splatoon.
C'est pas prévu, Splatoon, que ce soit compatible ?
Pour le moment, il y a Smash Bros, Mario Kart, Captain Toad, Mario Party 10 et Yoshi's Woolly World.
Ah, je croyais que c'était
bien. Et Hyrule Warriors.
Et Hyrule Warriors, ouais.
Quel jeu fantastique.
Et j'ai lu ici et là... aussi que peut-être que Nintendo allait faire des cartes NFC.
On a déjà eu le droit avec Kid Icarus aux cartes, alors c'était des cartes réalité augmentée.
C'est des cartes, ouais, là ça va être plus des cartes NFC, alors c'est une rumeur, hein, c'est encore à l'état de rumeur, mais ils sont bien capables de nous faire ça aussi, un Pokémon avec des cartes NFC, ouais. Ça peut le faire, quoi.
Mais oui.
Genre avec les cartes Pokémon.
Un jeu de cartes Pokémon, style la carte Magic, quoi, tu vois.
Ouais,
tu pourrais jouer physique avec tes potes. Et en plus de ça, tu pourrais jouer en ligne, juste
online,
en les scannant, en faisant
sur
le gamepad.
Voilà.
Ça serait bien.
Et là, par contre, ça peut vraiment cartonner. Ce serait plus intelligent que faire des figurines, parce que tout le monde veut un Pokémon Stadium ou un truc comme ça, avec des figurines. Je me vois mal acheter 700 figurines pour... C'est costaud, quoi. Alors que bon, si t'es un gros fan et t'achètes déjà 100 ou 200 cartes, ça prend quand même moins de place. Donc à voir, ils peuvent très bien faire des cartes, des petites cartes, hein, des trucs un peu à la con. Hein. De toute façon, ils sont à fond dedans, il faut qu'ils gagnent un peu de fric là-dessus.
Ils ont dit qu'ils y iraient sur la fin, qu'ils allaient bien y aller à bloc sur la politique des produits dérivés, donc ça va avec. Hein.
Ça va largement avec. Hein. Donc. Après, ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est tout le temps la finalité de savoir à quoi ça va servir. Et ça, Nintendo, par contre, à même pas un mois de la sortie, c'est un peu moyen, quoi.
Ouais, ça donne l'impression qu'ils l'ont sorti compatible avec Smash Bros, histoire de dire, quoi.
Bah, j'ai l'impression qu'il y a juste Nintendo Japan qui est au courant de à quoi ça va servir.
Ça se trouve, demain, en fait, toutes ces questions trouveront réponse, et là, on se fait chier pour rien, hein.
Peut-être.
Mais peut-être bien.
Mais ça réglera pas le problème qu'il n'y a plus la culotte de Peach maintenant.
Voilà, non, ça c'est un peu triste.
On peut la rajouter.
C'est triste.
Aux États-Unis, c'est déjà dans 2 semaines, hein, les amiibo. Bah,
mais du coup,
c'est rapide.
Chez nous aussi, ouais, c'est bientôt.
Chez nous, c'est. Ouais, ça peut prendre en même temps, je pense.
Ouais, ils les sortent en même temps que la grosse. J'allais dire avant, mais non.
La première vague.
Ouais, c'est fin du mois, 28 novembre. Et une deuxième fournée, je sais plus.
Le 19
décembre.
Genre, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. Pourquoi pourquoi ils filment pas tout en même temps.
La production, le temps de...
Et ben voilà, le temps d'approvisionnement, parce qu'il y aura des millions d'exemplaires, parce que ça va avoir un succès fou.
Exactement.
Voilà, parce que, comme nous l'avions prédit d'ailleurs...
Et tu pourras avoir ton petit Kirby sur ton bureau.
Et je pourrais avoir mon petit Kirby sur mon bureau.
Mais moi, j'ai un doute, je suis pas sûr que ça va tant que ça flopper, quoi. C'est...
Bah, ça, c'est plus difficile à dire, parce que...
Ouais.
Mais c'est vrai que les avis que vous avez exprimés tout au long de cette partie de l'émission reflètent quand même bien le doute. C'est-à-dire que vous vous dites, ouais, ok, les figurines sont quand même chouettes, donc j'en achèterai peut-être une ou deux pour la collecte, ou parce qu'elles sont jolies, ou je sais pas quoi. Mais finalement, vous êtes pas non plus ultra enthousiaste, genre, je vais tous les acheter, il faut que je les ai à la sortie. Bah ouais, mais du coup, cette impression mitigée que t'as avant, sans avoir vraiment vu ce dont c'était capable... Tant que les mecs sont pas capables de te démontrer que finalement il y a du potentiel, tu vas avoir un petit peu plus de mal à te décider. Donc,
pour moi, c'est.
Mais
c'est
bienvenue dans le monde joyeux du marketing.
C'est pour ça qu'on est des clients Nintendo et pas des clients Sony, sinon on aurait déjà tous acheté une PS4 si on achetait comme ça.
Star Battle,
Battle Royale.
Tandis que Nintendo, on achète en connaissance de cause.
Pour moi, ça va être. Pour moi, ils peuvent faire un gros carton si des circuits pour Mario Kart, par exemple.
Oh, je
ne suis
pas sûr. D'ailleurs,
en parlant de circuit, le DLC sera bientôt,
Ouais.
La semaine prochaine.
Ils pourront pas stocker le DLC dans la figurine. Ça pourrait débloquer un truc pour télécharger le.
Ouais, c'est ta clé d'activation en fait.
Voilà, c'est une clé d'activation. Comme pour Disney Infinity, t'as un pack de base. Je vois par exemple pour Disney Infinity 2.0, t'as un pack de base avec Iron Man, Thor et puis je sais plus quoi, Scarlet Witch.
Black Widow.
Black Widow, voilà. Et du coup, si tu veux l'aventure Garin de la Galaxie, bah t'achètes un autre pack avec d'autres figurines. T'as pas CD à l'intérieur. Ça te débloque juste l'aventure qui est déjà dans le jeu en plus. Donc.
C'est un free to play.
Ouais, c'est un peu ça.
C'est un peu ça. Bon, messieurs, on va quand même devoir conclure cette émission parce qu'il commence à se faire drôlement tard et que la playlist des beds, donc des fonds musicaux que vous entendez tout au long de l'émission, arrive au bout. C'est la première fois que ça arrive.
On a fait un film là.
On a fait un film. On a parlé de sujets extrêmement intéressants. Tu vois, Médus, t'étais pas convaincu que les amiibo ça pouvait cartonner, ben voilà, dans ton cul.
Encore, moi.
Non, mon cul, ouais.
Voilà. Alors moi je vous propose de la prochaine émission qu'on la consacre à Sonic Boom.
Tu vas être tout seul. Tu nous fais un solo.
Donc je sais pas à quoi on va consacrer la prochaine émission, mais voilà. En tout cas, on se
sera le 18 novembre. Et d'ici là, il y a rien qui sort.
Il y a rien qui sort, mais il y aura un
DLC de Mario Kart dans une semaine. Il y a le DLC de Mario Kart.
Oui, il y a le DLC de Mario Kart. On pourra très probablement parler du DLC de Mario Kart.
On pourra très probablement en parler.
Je trouverai sûrement une Actus Smash Bros à sortir.
Et voilà, là, ça, je te fais confiance là-dessus.
Et Splatoon
pour tenter un platine pur sur l'ensemble de la saison.
Ça voilà. Va être très dur. Hein.
Moi, fais Splatoon, moi.
Oui, voilà, tu fais Splatoon. Moi, j'essaie de pas commencer en retard, mais là, j'ai déjà foiré, donc c'est un peu merdique.
Tu vas avoir une médaille d'or.
Voilà, bah ouais, c'est un peu bête. Enfin, recommencer le niveau. Bref, c'est pas grave. Bon, on se retrouve dans 2 semaines. Salut tout le monde.
Bisous.
Bonne nuit.